Bonjour, je suis Willem Cotta. Vous ne m'avez sûrement pas écouté dans des podcasts comme Pas plus tôt qu'hier ou encore Battleground. Donc je vous recommande de les écouter. Et il y a de fortes chances qu'on ne se connaisse pas. Mais j'ai quand même décidé de repartir à 180 sur les autoroutes de l'Internet libre, accompagné de quelques barbouzes de la critique de cinéma. Le tout les cheveux au vent, surtout ceux de Bastien. Parce que oui, c'est de cinéma qu'on va parler ici, et j'aimerais qu'on en parle sans retenue, qu'on débatte, qu'on discute, avec tout ce que ça implique d'erreurs, de mauvaise foi, mais aussi de fulgurance, d'envolée, lyrique ou digressive. On va revenir sur l'actualité, on débriefera de films en particulier, on tentera des chroniques, des dossiers, et peut-être même des jeux, mais ça on verra bien. Surtout, j'aimerais vous faire découvrir des personnes que j'estime être des personnalités du cinéma. Rien que ça. Voilà, vous les entendez déjà. Je voudrais que ces gars... Non, je vous avais pas prévenu, non.
Moi non plus.
Non, c'est... Ah oui, on passe la barre, là. Je voudrais que ces gars et ces filles vous fassent rire, vous fassent acquiescer ou même enrager. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être le cas. Et ce que j'aimerais énormément, c'est que vous participiez, vous, qui écoutez, à cette aventure en nous donnant vos retours sur les émissions. Bon, maintenant que la barre est placée, bienvenue dans la contrebande.
Je connais cette théorie.
Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
Nom de Dieu!
Ça dirait de grandir, hein.
On est pas bien là?
Ça dirait de grandir.
Tu descends les coussins d'huile?
Cette première émission s'articulera en deux parties. On va commencer par un petit échauffement autour de Thor Ragnarok. J'espère que vous êtes tous chauds pour ça, Thor 3. Puis on glissera gentiment vers le phénomène des univers cinématographiques partagés. Et pour m'accompagner sur ce conducteur un peu retravaillé à la dernière minute, la première contrebande d'aujourd'hui est composée de Bastien à ma gauche. Bonsoir Bastien.
Bonjour tout le monde. Bonjour à tous.
Bon Bastien, comment ça va?
Ça va très bien, et toi Willem?
Moi ça va, heureux de faire partie de la contrebande pour la première émission.
Écoute, j'attaque ma sixième bière et pour une première émission, je pense que c'est parfait.
Oui, c'est vrai que le jour tombe, les bières aussi, c'est parfait. Ensuite, oui c'est ça, accoudé sur son coussin, nous avons Lucas. Bonsoir Lucas.
Salut oui. Salut tout le monde.
Est-ce que t'es content d'être là?
Oui, je suis très content d'être là. Moi, j'ai bu un peu moins de bière, mais je suis content d'être là, Bastien.
Bon, bah, c'est sûr.
Dans cette première émission.
Ah, bah, oui, dans la première. Et j'ai aussi Cédric. Bonsoir, Cédric.
Bonsoir.
Avec son magnifique t-shirt Superman, qui va tout de suite parler des Marvel, comme disait Lucas.
Je suis très content. Voilà.
Donc toi, t'es la caution un peu, la caution fanbase.
Ah ouais.
Je sais pas. J'étais
pas au courant.
J'étais pas au courant.
Putain, je suis niqué,
mission traquenard. Oh merde.
C'est l'émission chose trap.
Après tout ce qu'on a vécu, comment tu peux me faire ça?
Non, j'ai cru comprendre dans le
vous allez assister à la fin de l'émission, c'est génial.
Non mais oui, du coup t'es content d'être là quand même si ça commence mal.
Ouais. Je pense que je suis le moins alcoolisé de tous, donc ça va.
Oh oui, tout de suite. Ça va venir. Tiens, on en a pour une bonne heure là encore.
Ah bah, regarde Ayuri.
Et juste à côté, qui tient le crachoir, j'ai Jean-Victor.
Bon, le crachoir, merci, je t'en remercie.
C'est l'école des fans.
Ouais. C'est l'école, bah, il faut mettre un tour de table.
Je suis super content d'être ici.
C'est vrai, t'es content?
Oui, ça va être super.
Super. Donc avec son cheveu sur la langue qui va très vite disparaître, Jean-Victor. Et je vous propose tout de suite de me dire ce que vous avez pu penser de Thor 3.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Thor Ragnarok, Taika Waititi, sorti il y a quoi? Là, alors on enregistre, sorti il y a deux semaines. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Bon, on l'a.
Des dates, quoi.
Ouais, c'est comme ça qu'on se repère dans le calendrier.
Qui est, j'ai pas noté, mais qui doit être quoi, le 38e film Marvel dans ces eaux-là?
Un peu moins.
C'est le.
Le 21e.
Non, c'est le 16e, je crois, de mémoire.
Moi, je me souviens des dates, toi, tu te souviens des numéros.
Mais
non,
oui.
J'ai dit je crois en plus, attention.
Alors, ne sois pas déstabilisé parce qu'on a dit que t'étais la caution.
Tu calcules, tu calcules par rapport aux phases 1, phase 2 ou tu prends en compte les films
non, phase 1, c'était 6 films. Phase 2, c'était 7 films, je crois.
7 films, la phase 2.
La phase 2, je crois.
Ah ouais. Mais là, on est dans la phase 3, c'est ça?
Ouais, c'est un que final. C'est avec 10 films, je crois, au compteur.
D'accord. Ah ouais, putain.
Donc, ouais.
Voilà, donc okay. C'est bien parce que je ne l'ai pas vu, donc moi je peux vous parler de tous les autres, de celui-là.
C'est très bien.
La bande-annonce me donnait un peu envie.
C'est vrai.
Oui, mais l'affiche me donnait plus envie. Moi j'aimais bien le côté pop acidulé, un peu mauvais goût. Et le problème que j'avais, peut-être vous allez me dire, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'il sort beaucoup sur la vague Gardien de la Galaxie.
Ah oui, un petit peu.
Ouais.
Il a dit qu'il avait mauvais goût, on est d'accord. C'est, il a commencé par ça. Donc,
il a dit qu'il aimait bien le côté mauvais goût.
J'ai dit que j'aimais bien le côté mauvais goût de l'affiche.
Eh voilà. Voilà, ça c'est pour fêter le. On fête le.
Ça, le micro l'a entendu.
Et j'ai d'ailleurs oublié, en passant à ces tympans chaleureusement, Antoine Buisson qui est au son, évidemment, à la console. Pour en revenir à Thor 3, on l'a tous vu ici sauf Cédric, c'est ça ?
Ouais,
c'est ça. Marrant. Par où on commence ? Parce que j'ai cru comprendre.
Le Real qui est un petit peu atypique.
Bien sûr.
Le Real de Thor 3, c'est un petit nouveau dans l'écurie entre guillemets Marvel. Ouais. C'est un mec qui s'appelle Taika Waititi.
Qui s'est fait happer par l'écurie Marvel.
Ouais, et en fait, c'est un mec super intéressant, même s'il a quand même joué dans Green Lantern à l'époque.
C'est le mec de Vampire Malgré Moi, ou je sais plus quoi. Enfin,
de Vampire en toute intimité.
Vampire en toute intimité.
Exactement.
What we do in the shadow.
C'est la version de Disney Channel.
Ah oui, c'est ça.
Chica Vampiro.
Chica Vampiro.
Non, et en fait, c'est un type qui vient de Nouvelle-Zélande, si je dis pas de bêtises, qui était qui orbitait avec le groupe des Flight of the Conchords.
C'est ça.
Et qui est un mec qui en est, je crois que c'est son quatrième ou cinquième film en Ragnarok. Il avait fait un truc qui s'appelait Boy, notamment. Il avait fait donc le fameux Vampire en toute intimité.
Ouais.
En VO What We Do in the Shadows, qui est disponible sur Netflix, et vous pouvez vous foncer parce que c'est un faux documentaire où en fait des journalistes rendent visite à une colocation de vampires en Nouvelle-Zélande, et c'est hilarant.
Des vampires des différentes époques de vampires.
Ouais, t'as un Nosferatu qui a plus de 800 ans et qui fait peur, et lui joue dans le film d'ailleurs, il joue un espèce de dandy un petit peu rigolo.
La super bonne idée en France, c'est la VF quoi.
Ils avaient fait une VF.
Nicolas et Bruno. C'est Nico Bruno et Nicolas. Il y a Alexandre Astier qui prête une voix à un des personnages. Et
Nicolas et Bruno, les mecs des.
Nicolas et Bruno, les mecs qui bossaient sur Canal sur.
Message à caractère informatif.
Message à caractère informatif.
Et tout à fait. La recherche du livre, message à caractère pornographique.
Oui, c'est.
La recherche de l'ultrasexe.
Ouais, c'était le nom de code au début, c'est pas grave.
Et en fait, ils ont fait ils ont réécrit en fait tous les dialogues en français et ils ont redoublé. Et au final, je crois que ça se passe plus en Nouvelle-Zélande. Quand tu regardes la VF, ça se passe à Limoges ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça, c'est dans la province. Quoi.
Mais surtout, c'est vraiment les mêmes. Ils reprennent les mêmes voix que dans Message à caractère informatif. Quoi. Donc c'est genre, et voilà la salle de torture, vous trouvez ça comment ?
Donc c'est très. Après, la VO est déjà très drôle. Donc vous avez une VF en plus un peu travaillée. Et depuis, il a fait un film qui est pas sorti en France qui s'appelait Hunt for the Wild People avec Sam Neill, qui est pas mal du tout. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir ce mec-là, qui a quand même un humour assez absurde et très décalé, qui a vraiment le sens du décalage et du contre-temps, s'attaquer à un projet Marvel. Et moi, c'est là où je trouve le film extrêmement décevant, c'est que d'un point de vue purement humoristique, en fait, c'est pas du tout l'humour de Taika Waititi, ou en tout cas très peu. C'est l'humour de Marvel qu'on se cogne depuis plus de 10 ans.
Bien sûr, avec les quips, les trucs.
En fait, c'est simple. Si vous avez vu tous les films du fameux MCU, je vous défie de pas deviner toutes les blagues du film. Quoi. C'est que tu vois tout arriver à 3 km parce qu'on est dans ce fameux truc comme à l'époque d'Avengers quand Hulk prenait Loki et lui tabassait la tronche version Tex Avery. On est dans cette mode de systématiquement tout désamorcer par l'humour avec une grosse blague bien débile. Et là où c'est problématique, au-delà du fait que l'humour est ultra répétitif, c'est qu'on est sur un film qui a priori avait un scénario hyper grave, parce qu'on parle du Ragnarok, donc vous pouvez vous plonger dans la mythologie nordique, c'est un truc assez costaud.
C'est la fin du monde.
C'est la fin du monde chez les Asgardiens.
La bande annonce montrait que son royaume était détruit, quoi.
La déesse de la mort qui débarque pour foutre le bordel, et elle le fout bien.
On le voit pas sur champ.
On le voit pas. Je crois que tu vois plus de trucs dans la bonne annonce d'ailleurs que dans le film, mais concernant la destruction. Mais et en fait du coup on a un film qui est c'est YOLO the movie quoi. C'est le film qui non mais c'est, je crois que chez Marvel c'est
pas le film avec Depardieu du coup.
Non plus. Mais c'est littéralement je pense le film Marvel qui en a le plus rien à foutre et qui le revendique. Mais il y a un moment où enfin moi personnellement en tant que spectateur j'ai aucune attache. Enfin les persos tu t'en fous. En plus il y a aucune cohérence. C'est-à-dire que par exemple Hulk qui est dans le film. Qui était quand même ce mec un peu torturé machin de maintenant c'est devenu un gros bouffon
le dude c'est devenu un dude
voilà, c'est, genre il est tout le temps Hulk
un footballeur américain
c'est un gros gogol quoi comme Hulk tapé
c'est complexe parce que là déjà ils ont voulu mélanger deux comics
oui.
Ils ont voulu reprendre Planète Hulk
et
pour une raison un peu obscure je crois la principale raison ils avaient expliqué c'est que quand ils ont voulu faire leur film Civil War ils ont tout de suite parti du principe qu'il fallait pas qu'il y ait ni Thor ni Hulk parce que c'est les deux seuls qui ont une force trop puissante qui déglinguerait les équipes, donc ils ont voulu garder un truc à peu près, on va dire, humain pour leur battle dans l'héliport.
Ils auraient même pu les opposer en plus.
Ils auraient pu les opposer, mais je pense que du coup, ils ont voulu leur faire un traitement spécial et surtout que dans Avengers 2, Hulk partait, il rompait avec Natasha Romanoff, il partait, il y avait un truc un peu dramatique. Donc
ils en parlent dans Thor, dans Thor évidemment.
Je pense bien, mais je pense qu'ils voulaient peut-être pas régler ça dans Captain America 3 parce qu'il y avait déjà tellement de choses à fourrer dans Captain America 3.
C'était déjà tellement Avengers 2.5.
Non, et puis si je me rappelle bien, dans Civil War aussi, il y a un truc comme quoi c'est le clone de Thor qui tue un personnage de Marvel.
Ah ouais,
il tue genre Goliath ou un truc comme ça.
Enfin, bref. Civil War?
Dans Civil War, dans la BD. Dans la BD.
Ah
oui, dans la BD, excuse-moi.
J'ai raté des trucs au cinéma, putain.
C'est caché que j'ai pas vu du tout.
J'ai oublié deux lettres, BD. Et du coup, non, mais oui, dans la BD, du coup, je sais pas si c'est aussi ça qui fait que ça aurait peut-être embrouillé un peu l'histoire, que là, Thor, il aurait fallu lui trouver un rôle, et en plus du fait qu'effectivement, alors maintenant, il s'attarde sur la cohérence des pouvoirs et tout ça, mais puisque visiblement, pour Hulk, ils se sont pas trop posé la question, puisqu'on explique.
Ah bah c'est même plus le même perso, au final.
On explique que Hulk, que Banner, Bruce Banner, qui est donc l'alter ego de Hulk, est censé contrôler toujours son Hulk, que c'est parce qu'il est toujours énervé qu'en fait il décide quand
il peut, voilà, prétendait à la fin d'Avengers.
Voilà, c'était la grosse blague de genre il dit ça et juste après il se transforme. Et ben en fait dans Thor 3 on renverse complètement le truc, qui est qu'en fait il a perdu le contrôle et que c'est du coup Hulk qui a pris la place de Banner. Et du coup, au bout d'un moment dans le film, alors, spoiler alert, excuse-moi, Cédric.
Bruce Banner est de retour.
Bruce Banner revient à partir de la moitié du film, à peu
ça
près.
Ça, on voit la bande-annonce.
Il revient déguisé en Tony Stark.
Oui, en plus, il a les habits de Tony Stark.
Spoiler pas trop.
Oui, enfin, c'est parce qu'il trouve des habits, il est à poil à la base et il trouve des habits de Tony Stark. Mais oui, donc du coup, Bruce Banner réapparaît en mode je comprends pas ce qui m'arrive, tout ça, et du coup, ça devient. On retourne tout et ça suit la marche du film de Thor perd tout dans ce film. C'est aussi pour ça qu'il y a ce côté un peu YOLO the movie. C'est que Thor perd tout dans ce film-là. Il perd ses pouvoirs, il perd son royaume, il perd ses cheveux. Il perd ses couilles aussi, puisqu'on nous montre bien qu'il est un peu castré dans le film, puisqu'il se fait battre que par des filles. Donc, oulala, Thor perd sa virilité, qui est quand même le super-héros Thor. Moi,
c'est pas une référence au fait que depuis maintenant 2 ans, Thor, c'est une femme dans l'univers Marvel?
Peut-être aussi, ouais.
Il est devenu une femme.
Loki c'est pas une femme aussi?
Loki aussi, peut-être, mais Thor, c'est sûr, mais Loki,
il est sympa.
Pourquoi?
Je suis d'accord avec toi, mais là,
Tu vas loin, je l'ai pas vu.
Non, je pense qu'ils sont
défendants. Ils ont pas
réussi. Je suis d'accord avec toi. Je serais vraiment beau si c'était ça. Quoi.
Je me doute bien que c'est du YOLO. On s'en fout. Mais je dis juste, est-ce que en termes de production, ils ne justifient pas ça par cela?
Je dis pas que c'est leur excuse. En fait, c'est marrant parce que là, quand tu parles du film, effectivement, que tu réexpliques un peu, tu le dis, putain, il y a matière.
Oui, mais oui.
Il y a plein de trucs. Sauf qu'en fait, le film s'en bat tellement les couilles à tous les niveaux que.
C'est que le problème, c'est qu'ils ont décidé de faire du coup de Thor, de lui enlever tous ses attributs qu'il va évidemment regagner à la fin, parce que sinon c'est pas marrant. Et ils ont décidé du coup d'en plus enlever tout son côté super sérieux et d'en faire un personnage
super sérieux. Ça a toujours été un peu, tu sais, le poisson en dehors du bocal.
Oui, mais c'était un peu le côté Jean Reno dans Les Visiteurs.
C'est un truc qui est intéressant, c'est que je crois que c'est la seule saga Marvel, on va dire, dans tout l'univers où chaque film est complètement différent parce qu'ils ont jamais trop su quoi faire de Thor. C'est-à-dire que le premier, ils ont essayé de la jouer très premier degré.
Ouais, mais le premier, et en fait, de le faire un peu sérieux. Sur Asgard, qui était la caution de Kenneth Branagh, après, machin.
De la comédie basique.
Quand t'étais sur Terre, c'était quand même le mec qui arrive dans le diner et puis qui balance son verre, servez-moi une autre bière.
Oui, bien sûr. Mais tu regardes le 2, c'est plus vraiment ça. C'est
une comédie aussi. Hein.
Bah, je le trouvais moins drôle déjà.
T'as quand même le côté, je pose mon marteau sur le bord de machin, je prends le métro. Enfin, t'as quand même toujours l'humour Marvel, quoi.
Ouais, mais je pense que ça s'est développé vraiment à partir d'Avengers 2, où ils ont dit, bah tiens, on va en faire effectivement l'espèce de plouc qui comprend pas trop ce qui se passe.
Sur Avengers 1 déjà,
un petit peu, mais je trouve vraiment que ça se marque à partir, pour moi, le passage décisif de là où Thor, il a perdu toute crédibilité, mais après, ça peut être rigolo. C'est la scène du marteau dans Avengers 2 où ils sont bourrés, ils essayent tous de soulever son marteau.
Ouais.
En mode rigolo, je pense.
Oui, c'est là où il rajoute un aspect aussi. Parce que il me semble qu'au début, il n'y avait pas ce truc du marteau que personne d'autre pouvait le soulever. Enfin, il ne le montrait pas autant, en tout cas.
Ils disent que c'est le sien.
Oui, voilà, ouais, mais il le montrait pas autant, je crois. Oui, peut-être que du coup, ça fait partie des super-héros. En plus, il est tellement. Ou en couleur, enfin c'est quand même le demi-dieu de l'univers Marvel et tout. Peut-être que par rapport aux autres qui sont peut-être un peu plus ancrés dans le réel que ça, ils ont peut-être un peu plus de mal à le gérer. Contrairement aux Gardiens de la Galaxie par exemple, où dès le début on te dit c'est des mecs dans l'espace, dont en plus Marvel se foutait peut-être un peu aussi parce qu'on les connaissait pas trop. Ouais, enfin Marvel Disney, je veux dire.
Il y a un affiche sur la fiche du film qui disait You're welcome en haut.
Ouais.
Voilà, c'est pour vous les gars qu'on fait ça.
Oui, voilà. Ouais.
De rien quoi.
Mais
Thor, t'as aussi le truc, oui, de, bah, c'est un problème chez Marvel en général, c'est la question effectivement de la puissance du personnage. Et en soi, quand tu regardes par exemple le premier Avengers, Thor, je pense qu'à lui seul, il a moyen d'arrêter l'invasion à la fin. C'est juste que tu le vois juste balancer trois éclairs dans un bout de la fameuse bataille à New York. Alors que si on se réfère aux fameux comics dont ils se sont inspirés Ultimates, en fait, Thor, quand il commençait à monter dans le ciel et à faire péter les éclairs, ça prenait carrément une double page. Oui, et voilà. Le mec rétamait lui seul la flotte alien, tu vois. Donc je pense qu'ils ont toujours, eu ce problème de, mais c'est aussi propre à d'autres personnages comme maintenant la sorcière rouge, etc., de pas trop montrer les pouvoirs des trucs pour qu'il y ait quand même un minimum de baston, d'enjeux, etc.
Du coup,
en fait, ils l'ont toujours un petit peu coupé la chic, hein, petit temps. Hein.
La chic.
Dire ça comme ça.
Mais oui, est-ce que moi j'ai trouvé d'ailleurs dans ce film-là, en parlant de ça, que il y avait quand même un côté un peu shonen, tu sais, le côté un peu
un côté
genre on lui fait perdre ses pouvoirs pour pouvoir battre le gros méchant, il faut qu'il gagne des nouveaux pouvoirs,
il faut redevienne surpuissant,
voilà, une fois qu'il redevient surpuissant, qu'il gagne ses pouvoirs, en fait cette méchante là elle peut plus faire grand chose, et qu'en gros bah comme dans les shonen ou dans les Dragon Ball, dans les trucs, ils battent le gros méchant qui paraissait imbattable. Et du coup, après, c'est la suite au prochain arc où ils n'auront pas assez de pouvoir pour battre ce mec-là. Enfin, tu vois, cette évolution de... Mais là, qui se fait dans un seul film, en fait. Tu vois, parce que globalement, c'est ça, ce film-là. Mmh. C'est, on lui a enlevé ses pouvoirs, on lui fait regagner, il bat le méchant. Et tout est fait dans un seul film, quoi. La chute et la... Enfin, c'est un schéma assez classique, en vrai, mais...
Oui, sauf que le problème, c'est que le film s'en bat les reins, en fait.
Enfin, oui.
Il s'en bat les couilles, il s'en bat les reins, il s'en bat tout.
Il s'en bat tout.
La chic.
C'est terrifiant. Le film ne raconte pas grand-chose, il ne montre rien, il s'en fout. Et dès qu'il pourrait vaguement amorcer quelque chose, il le désamorce dans la foulée. D'un point de vue narratif, c'est terrifiant, un film comme ça. Il n'y a rien. C'est d'une
vacuité absolue.
C'est impressionnant.
C'est un des Marvel qui raconte le moins de trucs.
Le moins de choses, où tout est désamorcé. Et on parle de Marvel, déjà, c'est pas ouf de base. Mais là, ça désamorce tout, c'est terrifiant. Et du coup, le film n'est pas forcément très long, c'est pas le plus long des Marvel, il est 1h40, je crois, un truc comme ça.
Ouais, Il fait 2h.
Il faut se le cogner quand même.
C'est ce que tu disais au début, pour Thor 3, j'ai l'impression que les autres, je dis pas qu'ils savaient mieux le vendre. Thor 1, effectivement, le premier, il y avait Kenneth Branagh derrière, donc la dramaturgie s'en sortait bien, il l'avait vendu un peu comme limite.
Du côté Shakespeare.
Une amourette, un peu, tu vois, genre avec Nathalie Portman, un peu Twilight, tu vois, genre, comment on va le vendre. Le 2, ils le vendent un peu plus dark, un peu plus fantasmagorique, etc. Le 2, un peu Game of Thrones, etc. Et là, le 3, bon, il y a eu le film de James Gunn, il y a eu Les Gardiens, alors du coup, le côté, le revival 80s dans lequel on est en plein temps, il y a eu Deadpool, il y a Stranger Things, tu vois, le côté 80s, du coup, on le vend comme ça. Du coup, en plus de ça, ils disent, on se base un peu sur toute l'esthétique qu'avait proposé Jack Kirby.
Jack Kirby, ouais. Ça, c'est littéralement, en fait, c'est des papiers peints dans le film, quoi.
C'est des papiers peints dans le film, qu'on filme très platement, d'ailleurs. Au final, on propose rien. On prend un réal derrière, effectivement, qui a un peu une identité, mais on lui laisse pas faire grand-chose. Ou pas, au final. Parce que là, on disait, on reconnaît pas Taika Waititi. Mais quand tu regardes un peu les interviews de Taika Waititi, qui parle des super-héros et de Thor, tu dis, putain, mais mec, j'espère que tu feras plus jamais de films de super-héros, des projets à toi. Parce que lui, il est en mode YOLO, j'en ai rien à foutre, pas de sérieux. Ce serait trop drôle que Thor, on le voit en couche-culotte. Enfin, tu vois, dans une interview, il dit des trucs complètement aberrants. Tu dis, non, jamais, jamais, il faut que tu fasses ça.
C'est marrant parce que, lui, clairement, il a joué à fond la promo aux US, notamment. Il revendique le film et il dit. En fait, il y a notamment des mecs qui l'ont un peu critiqué sur Twitter en disant bon, on s'en battait un peu les couilles, Thor Ragnarok, et lui dit ok, on n'a plus le droit de se divertir au cinéma, quoi. Tu vois,
c'est ça.
Mais t'as envie de dire, mec, il y a un juste milieu, tu vois.
Le monde est divisé, le monde est triste, on a Trump, du coup, j'ai pas le droit de faire des films.
J'ai pas le droit de faire rien,
tu vois. Et là, le film, c'est ça. Au final, comme tu disais, le Ragnarok, la fin d'un monde, quand on dit les émotions, on parle du père.
T'as juste envie de dire, c'est pas tellement le moment, quoi.
Et il se passe rien. Même les comédiens, heureusement que Chris Hemsworth est un peu à l'aise, parce que le reste, Kate Blanchett, elle campe une bonne méchante, elle est bien, mais elle a rien à jouer. Karl Urban, il est dans son cycle de j'ai les pires personnages du monde et je joue. Mais vraiment, le personnage de Karl Urban, c'est le pire film. Ouais. Déjà, du coup, je me suis dit, putain, avec Riddick, les chroniques de Riddick, c'est un peu machin. Mais là, je pense que c'est le pire personnage Marvel, rien. Le film n'est pas très beau, les CGI sont limite un peu dégueu.
Il y a ça aussi, c'est que là où tu vois le cynisme absolu du film, parce que moi je pense que ça en devient du cynisme, c'est que le film est torché, mais n'importe comment.
Ah oui.
Et il y a notamment une scène qui est super importante dramaturgiquement, qui se passe sur une falaise en Irlande, et ces connards qui ont 150 millions de budget, ils ont tourné ça sur un fond vert.
Ah oui, c'est moche, c'est extrêmement moche.
En plus, ils font quand même la réflexion, ils voient un truc s'évaporer, ils trouvent ça beau et tout, et ils font, c'est beau.
Oui.
Et là, t'as un plan, mais
cadré en plus avec le cul, ils sont face à un fond vert, quoi. Et tu fais, mais putain, c'est pas possible.
Ça m'a fait penser à Ian McKellen dans Le Hobbit. Je sais pas si vous avez vu le making-of où il se met à pleurer parce que.
Oui, parce qu'il y a trop de fond vert.
Il est face à que des trucs en vert et qu'il doit jouer tout seul, en fait. Ah ouais. Et là, du coup, je me suis imaginé Anthony Hopkins qui est comme ça en train de dire, regarde comme c'est beau. Et qui, en face de lui, la caméra en face, avec l'alarme, tu sais. L'alarme qui coule.
Regarde ce mur.
Regarde comme ce c'est beau. Face à un grand papier peint vert. Et en plus, on voit complètement que c'était filmé en studio, quoi.
C'est pas cette scène-là où il me semble que à la base c'était pas ce décor-là qu'il devait y avoir en fond.
Oui, c'est des reshoots. Le
trailer, c'était dans une ruelle.
C'est ça. Et au final, ils ont changé au dernier moment le.
Je me demande s'ils ont pas rotoscopé toute la scène.
Je la revois dans la ruelle et c'est le.
Et c'est devenu.
C'est une scène super importante du film en plus. Hein.
Ouais. Bah oui.
Qui arrive très tôt. Ouais.
La scène, oui, qui enclenche la suite et où la méchante arrive et où machin, enfin, oui, c'est...
Il y a des trucs, c'est sidant, quoi, en termes d'effets spéciaux, c'est putain, t'as envie de leur dire, les gars, vous avez le budget, quoi, c'est juste que vous êtes des gros flemmards et que...
Et qu'il y a ce cynisme de Disney, Marvel en général, qui est que de film en film, on essaye de te dire, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est on essaye de te dire... Oui, non, mais là, le film, il n'est pas du tout pareil que les autres Marvel que vous avez vus avant, en fait. C'est que là, on fait des blagues, mais vraiment des blagues. Hein. Et,
ça fait 10 films qu'on fait des blagues, mais celui-là, il est plus drôle que les 10 autres.
Thor, les gars, c'était sérieux. Maintenant, on rigole. Même Chris Hemsworth, il le dit en interview, il dit genre, non, mais là, c'est Thor comme vous l'avez jamais vu. Enfin,
il s'est coupé les cheveux.
Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça.
C'est New York.
Non, mais c'est surtout que du coup, et en plus, il y a cette espèce de cynisme qui est qu'on te dit, on fait de l'ironie sur le monde des super-héros, sur le machin, que eux-mêmes créé en fait, c'est-à-dire qu'ils font une ironie sur un truc qu'eux-mêmes ont créé, du coup genre oh c'est pas comme tous les autres films de super-héros, ouais mais c'est vous
c'est
qui les faites les films de super-héros
dans ces dernières retranchements,
oui, voilà.
Littéralement.
Et est-ce qu'on n'est pas
depuis le personnage depuis Iron Man, depuis le personnage de Tony Stark, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'effectivement tous les attributs, parce que comme dans la bande dessinée Tony Stark est comme ça au final, mais Tony Stark par Robert Downey Jr. les gens ont adoré.
Oui, le côté cynique du
Le côté
du
cynique, le côté au-dessus de tout, le mec flottant, enfin tu vois, bon, dans la BD, il est milliardaire, effectivement, il a un but de lui-même, il est insupportable. Mais ils ont réussi à le rendre attachant, du coup, dans Iron Man 3 un petit peu, mais du coup, ils sont à fond là-dedans, et là, ils le font mal, ils font même plus semblant d'en avoir rien à foutre, et du coup, vraiment, en tant que spectateur, mais je me dis, mais pourquoi moi, je devrais en avoir quelque chose à foutre, ce que je suis en train de voir.
C'est compliqué, je pense, l'univers Marvel, parce que déjà, je pense que pour Disney Marvel, tous les héros ne se valent pas. C'est-à-dire, je pense qu'ils font vraiment plus attention à un Iron Man ou à un Captain America qui pour eux sont des plus grosses licences qu'un Thor. Je pense que Thor, mine de rien, ils ont un peu plus rien à battre. Ils se disent que les gens iront le voir de toute façon parce que Chris Hemsworth et les nanas adorent Chris Hemsworth. Enfin, je caricature, mais
dans l'idée des prods, il y a ce truc-là. Torse nu, et même moi qui suis 100% hétéro, ça me fait quelque chose.
Hein. Voilà. Non, mais la caméra tourne autour de lui.
On le voit bien. Moi, je trouve un très bon exemple, c'est les gardiens 1 et 2. Les gardiens 1, ils en avaient rien à foutre. Donc effectivement, ils ont laissé James Gunn un petit peu maître du projet. Les Gardiens 2, on sent déjà que, même si je pense qu'il a gardé une certaine autonomie, parce qu'ils ont dit ça a marché, parce qu'il faisait un peu ce qu'il voulait, ils lui ont quand même demandé de respecter... Ouais, mais ils ont quand même demandé de respecter un cahier des charges, je pense, de un peu refaire la même sauce. Mmh. Ça a super bien marché, refait exactement la même chose. C'est un peu le syndrome 22 Jump Street. Je sais pas si vous l'avez vu.
Ouais, bien sûr.
Ils font, mais on refait ce qu'on a fait dans le 1. Exactement la même chose. Ouais, mais c'est pas possible. Ouais, mais refaites-le quand même.
On est sûr que dans Tony Hawk Jump Street, c'est drôle.
Ouais, non, bien sûr. Bien sûr, mais non, mais carrément.
Justement, c'est ça que j'adore dans Tony Hawk Jump Street, c'est que Tony Hawk Jump Street est encore mieux que 21. Ah oui, parce qu'il y a le côté.
On est tout à fait d'accord.
On vous a refait la même chose. Et il y a vraiment
une
réflexion dans le fait qu'on resserve la même chose, mais que ça prenne de la puissance, etc.
Mais au final, Thor Ragnarok, vous me le vendez pas. Mais étant fan de Marvel, je vais quand même aller le voir, même si je pense sincèrement que vous avez tous raison et j'irai surtout le voir pour.
Je tiens mon avis, mais je vais quand même y aller.
Oui, mais parce que, en fait, moi, grosso merdo, Marvel, à ce que j'ai compris, je suis le seul à peu près fan de ce qu'ils font cinématographiquement, en général. C'est-à-dire que même quand c'est nul, j'aime bien, je sais pas, il y a un côté enfant en moi qui parle. Je pense que
mais
c'est.
Mais il joue complètement là-dessus.
Je
suis pareil que toi là-dessus.
Comme quand on voit les vieux films d'action, il y en a beaucoup qui étaient pourris, surtout là, avec Jean-Claude Van Damme ou. Chuck Norris,
si tu veux, ça, t'allais pas en famille voir Jean-Claude Van Damme, quoi.
Mais ouais, l'idée, c'est de gagner de l'argent derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ouais,
évidemment
ouais,
que l'idée d'un film à la base, c'est un peu de gagner de l'argent aussi. Mais là, l'idée de Disney, parce que c'est de Disney qu'il s'agit, c'est qu'ils ont racheté Marvel à l'époque où Marvel se cassait quand même un petit peu la gueule, quand même. Enfin, au moment où ils ont racheté, Marvel était presque à mettre les clés sous la porte et tout ça. Et...
Non, parce qu'ils les ont rachetés au moment où ils avaient commencé.
Au moment où ça commençait à remonter, ils n'étaient pas au niveau de ce qu'ils étaient.
Ils étaient déjà en train de repartir
au moment où ils faisaient faillite, ils les ont un peu après, mais c'est pas comme par exemple pour LucasArts ou Lucasfilm où ils ont fait ces deux achats-là, Marvel et Lucasfilm, à quelques années d'écart, au final. C'est quoi
3 ans.
Ouais, c'est même pas... Ouais, 2-3 ans.
Je crois que c'est 2009, 2012, un truc comme
ça. Ouais, voilà. Et donc, ça représente des achats énormes. Et du coup, ces achats, maintenant, il faut les rentabiliser, quoi. Et ça implique... ça implique de lancer tous ces plans de films, tu vois, quand on cherchait quel film du MCU le numéro du film du MCU qui était Thor 3, on en est à une vingtaine de films, c'est ça, non?
Ouais,
c'est ça, on a dit une vingtaine, ouais.
On a pas fini d'en bouffer, hein.
Et c'est pas fini.
Ah, wouh.
Mais là, le prochain film, c'est quoi? C'est Black Panther, c'est
Black
ça?
Black Panther,
le
prochain, ouais, c'est ça.
Voilà, après, on a du coup, c'est déjà planifié, on a les Infinity War.
C'est la...
Je crois que dans l'ordre, c'est Black Panther, Avengers 3, Ant-Man, Captain Marvel et après Avengers 4.
Il y a autant de temps
que Ant-Man et Wasp avant Infinity War.
Et je crois qu'ils vont
sortir avant le premier,
un Spider-Man 2.
Ant-Man, il est encore en tournage. Avengers 3, il est fini.
J'ai compté 8 films pour l'année prochaine, je crois. 7.
8 pour l'année prochaine?
Non, il n'y a pas 8 Marvel. Non, 8 films de super-héros.
8
films de super-héros, non?
Oui, parce qu'il y a aussi Deadpool, il y a les Indestructibles 2, il y a.
X-Men aussi. Quoi?
Ah oui, putain, en plus il y en a deux, parce qu'il y a Dark Phoenix et il y a
Dark Phoenix et New Mutants,
c'est Taylor Joy,
Et ça c'est Marvel.
Enfin, voilà, tiens, les X-Men, ça c'est une bonne saga de merde, ça continue, ça devrait mourir depuis longtemps, franchement.
Je vais écouter, on parle de quoi?
Apocalypse, franchement on peut en parler, mais pour moi c'était horrible.
Mais pour parler
déjà juste ce phénomène des univers, là on en est quand même du coup à un truc qui est scène un peu partout au final. On a là, parce que là on prend les exemples classiques de MCU et DCU qui s'est lancé Man of Steel, c'était le DCU
Ils l'ont mis, mais au début ils l'avaient fait comme ça, et quand ils ont lancé Batman v Superman, ils ont dit qu'effectivement c'était le premier, c'était Man of Steel.
Mais Snyder, dans Man of Steel, apparemment savait qu'ils construisaient une base dans Man of Steel,
mais c'était pas encore, je pense qu'ils attendaient un retour critique ou en tout cas un retour monétaire pour se dire on le lance vraiment, quoi.
Mais l'intérêt du coup de... Parce qu'effectivement, Disney, avec ce qu'ils font avec Marvel, parce qu'après on parlera du reste, mais Marvel, c'est bien, parce que ça représente vraiment la quintessence de ces univers de partage.
Bien sûr, c'est les leaders là-dessus.
De choses pensées par des gens qui gèrent l'argent, les gens en col blanc, tu vois, qui font du tracking, etc. Pour savoir ce qui intéresse les gens, c'est que c'est des histoires d'investissement. Marvel, c'est un investissement. C'est ce qui les intéresse, c'est le côté déclinable à foison, la quantité de matière qui existe à la base.
C'est l'écurie, en fait.
C'est une question. Et c'est que les gens, ce qu'ils se disent, et c'est la preuve, par exemple, avec les Spider-Man, même si la situation de Spider-Man est un peu compliquée chez Marvel, mais c'est que c'est des univers, les personnages existent, fort ou moins fort. On peut changer les acteurs. Si un acteur commence à nous faire chier, s'il commence à coûter trop de thunes, on peut le changer. C'est pas grave. C'est pas ça le problème. Donc c'est vraiment une histoire de thunes.
Est-ce qu'on serait pas en train de dire que c'est des produits?
tu penses vraiment que Disney ne raisonne pas en termes de marque et en termes de qu'est-ce qu'on pourra vendre? Captain America, tu penses vraiment que c'est que ça au final?
Bien
justement
sûr.
Et parfois nous en tant que spectateurs, on se dit que peut-être derrière ils vont mettre un réalisateur intéressant qui aura
quelque chose à faire. Ce n'est qu'une plus-value au produit, en fait.
Des idées, des notions qui pourront peut-être infuser au-delà des notions même et de la puissance même des personnages quand même qui existent. Tu vois?
Mais pourquoi ils feraient ça, en fait? C'est pas rentable pour eux. Ça veut dire que.
Parce que ça fait une espèce de plus-value, un peu comme dans les comics, où au final, c'est un truc qui se passe déjà dans les comics.
Moi, je suis pas sûr dans le cas de Marvel, parce que maintenant, leurs licences sont tellement puissantes, ils ont besoin d'aucun nom. Je pense sincèrement, un Iron Man, il est vendu. On te dit James Cameron fait le nouvel Iron Man, bien sûr que ça va ramener du monde parce que c'est James Cameron et qu'il parle aux cinéphiles, mais t'enlèves la frange de cinéphiles, enfin la masse, c'est pas cinéphile, la masse des gamins, les grands-parents, tout le monde va voir les Marvel.
Ils vont voir de Joe Johnson ou de...
Donc je pense façon, que, là, voilà. Citez-moi le réel de Homecoming, là.
Il y a une anecdote qui est assez incroyable, enfin deux même, qui explique vraiment le changement un petit peu de gestion de Marvel, puisqu'on sait qu'il y a des réels qui avaient notamment des projets qui se sont barrés entre temps. À l'époque du premier Avengers, je crois que c'est le mec qui a fait Skyfall, Sam Mendes, qui avait expliqué qu'il avait reçu un dossier de la part de Marvel Studios. En gros, plein de réels avaient reçu ce truc-là, une espèce d'énorme mallette où il y avait plein de comics, etc. Plein de comics de plus ou moins plusieurs périodes d'Avengers, avec un espèce de dossier de présent en disant il faut que le film sorte à telle date, c'est la suite de tel film d'MC. Fondamentalement, c'est pas le droit de ça, vous proposez quoi. Et en gros, ils ont envoyé cette espèce de truc à plein de réels.
Un appel à projet.
Et finalement, c'est arrivé dans les mains de Whedon. Donc ça, c'était à l'époque d'Avengers. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment, il y a Xavier Jans qui a été approché pour Captain Marvel et qui expliquait qu'il a été chez Marvel Studios. Il est arrivé là-bas. le script était déjà écrit, les scènes d'action étaient déjà storyboardées, ILM était déjà en train de bosser dessus, et en gros on lui a dit, toi tu tournes toutes les scènes intermédiaires, machin, tu tournes, il nous faut de la matière, et derrière l'approche choisie entre les différentes versions de chaque scène que tu auras fait.
Ouais. Alors lui il est mort.
et le mec, bah, du coup, c'est barré, c'est arrivé dans les mains de je sais pas qui.
Le 7e art.
Et voilà, et en fait, maintenant, ils ont. Enfin, le fait qu'un type comme Edgar Wright, qui à l'époque du premier Iron Man, quand le premier Iron Man était en développement, est arrivé en disant Hey, j'adore Ant-Man, c'est super cool. Et le mec a fini par se barrer 3 semaines avant le tournage parce que, bah, du coup, son film, ça avait été réécrit en douce. Et il faisait plus ce qu'il voulait. Il dit c'est bon, enfin moi je veux faire mon film quoi. Et
après avoir bossé 5 ans dessus quoi.
Ouais, après avoir bossé 5 ans dessus. Et ça se voit. Ant-Man, tu vois la patte de Edgar Wright sur plein de trucs. Même si bon le film n'est pas ouf, mais voilà. Et en fait c'est ça qui est terrible, c'est qu'effectivement les gars ont qui ça, c'est un planning de prod hyper calé par des producteurs avec voilà des cases à remplir quoi.
Ouais, et c'est de plus en plus visiblement, c'est de plus en plus calé en fait.
Ah, ils ont déjà la phase 4 a priori.
Oui voilà, et si enfin après. Parce qu'on verra plus tard, mais est-ce que vous pensez déjà qu'il peut y avoir à la suite de ce qui est déjà prévu là, est-ce que ça peut encore continuer, est-ce qu'ils ont réussi à créer une recette qui est en train d'être copiée partout, est-ce qu'ils ont réussi à créer une recette commerciale en fait, ouais. de fabrication,
je pense que oui,
à la Disney, une nouvelle forme industrielle qui fait que c'est reproductible, reproduisible à l'infini.
Disney, ils font des dessins animés depuis 38, ils ont eu des coups de mou, ils ont eu des coups de haut, mais il continue, en fait, je pense que c'est pareil. Les gens disent toujours ah, les super-héros, c'est une mode. Bah, c'est une mode depuis maintenant, on va dire 2000. Enfin, il y en avait déjà avant des films super-héros, mais depuis le premier X-Men, c'est une mode. Donc, ça fait 17 ans que c'est une mode. C'est une longue mode quand même. Hein. Ouais, la tectonique, ouais, ça a duré 3 ans quand même à la place.
Tectonique, ça a duré 3 mois.
X-Men n'était pas un phénomène comme l'a été, enfin, comme le sont maintenant les Marvel Studios. Ça a mis du temps à monter quand même.
Je pense que là, on parle comme ça. Là, pour ceux qui nous écoutent, on n'a pas de chiffres, de feuilles sous nos yeux. Mais j'ai lu une étude récemment, effectivement, sur les gros studios, en mettant de côté les super-héros, et voir le pourcentage de films qui consacrent à des franchises. Ces 15 dernières années, ce pourcentage-là a augmenté. Donc le truc, c'est que... Parce que là, on se revoit un petit peu en se disant les gens vont voir ça. Effectivement, ça brasse des millions et des millions de dollars.
Milliards, même.
Des milliards, de, oui, effectivement, des milliards de dollars. Mais le film de super-héros, c'est quand même un genre. Tu vois.
Oui,
ça n'intéresse pas tout le monde. Et les gens vont finir par se lasser, même s'ils ils forcent la main aux gens pour qu'ils aillent les voir. Les gens peuvent se lasser parce que s'il y a de plus en plus de monde qui fait la même chose, mais exactement la même chose avec les mêmes recettes, la base de personnes qui vont voir les films, elle va pas grandir.
Ouais, mais c'est un cycle, oui, comme c'est le western.
Je pense que western dans les années 50-60, c'est pareil.
C'est quand, quand on aura pris 25 ans de films de super-héros, oui, d'un moment ça va s'écrouler quoi. Après, là
moi,
où en fait,
ce sera avant 25 ans, mais...
Non,
mais
j'espère aussi. Mais là où la question pour moi elle est problématique, c'est qu'en fait le modèle de production de Marvel, qui est pas juste de faire des suites, qui est de faire des films qui ont différents noms, qui sont connectés soi-disant les uns les autres, etc. À la base, c'est pas débile quand tu portes les comics au cinéma, parce que les comics sont écrits comme ça.
Oui.
Le problème, c'est que bon, je pense que c'est mal fait, mais surtout le problème, c'est que en fait, tous les autres studios sont en train de se dire on va faire la même chose avec des licences qui n'ont aucun rapport avec ça. Et...
En France aussi.
Hein. Oui, en France aussi. Oui.
Du Péroverse.
Du Péroverse. Ah, c'est le nom officiel.
Les nouvelles aventures.
Le nouvel.
Non, c'est lui, ça. C'est le nom de. C'est Willem, je le mettrai là.
Voilà,
les nouvelles aventures de Cendrillon.
Et à la 2.
À la 2. On est vraiment sur un titre officiel à la 2. C'est vraiment à la 2.
À la 2. Je pense que ce sera le titre.
Ce qui est dingue surtout, c'est que pour un univers étendu français, moi je pensais qu'il y avait un truc un peu plus cool à faire, quitte à rivaliser.
Bien sûr.
Non, excuse-moi, j'avais pas pensé à ça, mais je pensais à un truc. Pourquoi pas faire. Enfin, on a une grosse fanbase, genre Arsène Lupin, Belphégor, on pouvait faire un univers
ils
étendu.
Ont essayé, ils ont essayé.
Thomas, non, mais ils ont essayé à l'époque, c'est pas un univers étendu. Ils ont fait les films, ils se sont viandés parce que c'était des merdes. Mais effectivement, Fantomas, ils pourraient relancer Fantomas.
C'était un pédigré français que tu pourrais.
C'était Christophe Gans qui voulait rebooter Fantomas il y a une dizaine d'années, à peu près, parmi les 1000 autres trucs qu'il voulait faire avec Raon et 20 milieux sous les mers. Mais...
Ah non, il a fait la Belle et la Bête du coup.
Ouais.
Mmh. Mais oui,
20 milieux sous les mers. Qui est pas dans le Péroverse du coup.
Est-ce qu'il serait pas temps de faire un Verneverse? Un Jules Verne verse.
Mais pourquoi pas en fait. Le truc c'est ce qui est incroyable, c'est que ça va un peu partir sur l'émission d'après sur le cinéma français, mais en France on se dit à nous notre univers étendu, faut que ça soit de la grosse comédie bien bouffonne. Pourquoi on peut pas faire mais vraiment Fantomas ou même Fantomette, si vous voulez un truc. Enfin, on peut faire des trucs de KPDP d'aventure. Même là, il y a quelques années, il y avait Philibert Capitaine Puceau. C'était rigolo, mais c'était quand même un film de KPDP.
Un univers étendu.
Non, mais quitte à en faire un, j'ai dit.
Tu vois, juste, oui, juste, voilà. Juste une saga, ça suffit.
Non, mais hein, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, faut pas en faire. Mais vu qu'ils veulent le faire, vu que là c'est parti, hein, Aladdin, Aladdin 2, Aladdin 3. Pourquoi Kev Adams, pourquoi...
Là où c'est effrayant, c'est que du coup, ils ont DC Comics qui veulent le faire au cinéma, et éventuellement, why not, tu vois, c'est logique, c'est un peu, ça fonctionne sur les mêmes principes. Quand Universal commence à se dire, on va se faire un Avengers de film de monstres,
bah oui.
Tu fais putain, les mecs.
Non, parce qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils veulent le refaire.
C'est ça,
voilà.
Non, mais ils veulent le refaire comme des films de super-héros. C'est, ouais, les gars sont débiles, quoi.
Comme dans les années 20. Ouais. 30.
Bien sûr, avec les films de la mer, ouais.
Petit film d'exploitation, à l'époque où les gens ils allaient voir 3 films par semaine et que les gens allaient plus au cinéma et que les films se produisaient pas de la même façon.
Bien sûr.
Et en fait, ils veulent refaire effectivement des adaptations de Bram Stoker, ils veulent refaire Le Monstre du Marais, La Momie. La Momie, ils avaient commencé dans les années 90. On va dire que La Momie c'était le début dans les années 90 et ils se sont dit, hey, si on refaisait La Momie, tu vois, et on appelle Brandon Fraser et qu'on fait combien de films ? 3 films. Que là, ils ont refait un remake encore avec Tom Cruise. Parce qu'on est d'accord que le film avec Tom Cruise, c'était pour lancer Universal.
Ouais, c'est vrai, le logo au début.
C'était un peu le deuxième film après Dracula Untold, voilà. de Monster.
C'était un premier reboot. Et
ouais, Dracula Untold devait être le premier film officiellement du truc.
Ah ouais, enfin, un reboot,
ouais, bien sûr.
Et je me demande s'ils ne sont pas posés la question sur I, Frankenstein.
Non, I, Frankenstein n'avait pas parlé, mais effectivement, ils voulaient faire comme ça. Donc Frankenstein, La fiancée de Frankenstein, enfin, tous ces films-là. Et au final, ils ne le feront pas. Parce que je pense qu'on met de côté La Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Oui, qui
est encore un
peu dans Dorian Gray et tout.
Je pense que si le film avait marché, j'ai envie de dire si le film avait été bon, et moi je l'aime beaucoup ce film-là. De La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Mais qui est l'adaptation d'une BD, et que peut-être si le film avait marché, peut-être qu'on aurait eu un premier univers étendu de. Enfin, univers cinématographique de. Ils auraient peut-être fait un film dédié à chacun des personnages de La Ligue des Gentlemen.
La fin de Dracula Untold, parce que je suis seul à l'avoir vu ici.
Moi je l'ai vu, mais.
Tu te rappelles la fin de Dracula Untold ?
Non.
Tu te rappelles pas la fin de Dracula Untold?
Est-ce que tu peux spoiler la fin de Dracula Untold?
Tu l'as vu torcher avec.
C'était avant de voir Lucie.
Mais ah ouais, d'accord.
Oh, la journée de merde!
Non, la journée, c'était une soirée, c'était un soir avec toi. Ouais. Non, c'était Dracula Untold, il finit dans notre présent. À Londres, aujourd'hui, façon. Dracula Untold, ça c'est les origin story.
Putain, mais oui!
Et aujourd'hui, on est à Londres, et maintenant, ça va être notre présent, ça va se passer aujourd'hui.
C'était la fin de Dracula. C'est un préquel de Twilight, en fait.
En fait, c'est la... ils ont refait la fin de Castlevania, Lord of Shadow, du coup.
Ah oui, oui.
Non, mais c'est ouais. Et puis le problème, c'est que bah, du coup, toutes les grosses licences Transformers, ça y est, ils font un Transformers Universe.
Ah, il y a le spin-off de Bumblebee là, qui
Alors, en plus, qui est réalisé par Travis Knight.
Ouais, c'est ça.
Mec génial qui vient de studio de Laika. Qui vient foutre chez
Bumblebee. Ce qui est honteux, c'est que Marvel, il lance le truc. Ok. C'est DC lance leur truc. Ok, mais maintenant, tout le monde, comme tu dis, essaye de faire sa recette.
Les Transformers, pour moi,
je suis allé voir le dernier Transformers, on me rend que c'est vraiment une honte à tous les niveaux. Il y a quand même des gros incohérences scénaristiques avec tout ce qui a été créé avant, surtout Bumblebee, leur reboot de Bumblebee. Maintenant, il était là dans la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Bumblebee, c'était une
putain de... La voiture jaune, c'est ça ?
Ouais. Ah,
c'est le truc du premier Transformers.
J'ai vu que Transformers 4, donc je demande.
Et bah, dans Transformers 5, à un moment, ils te disent « Ah, mais Bumblebee, il était là, il se souvient et tout. » Et tu découvres que Bumblebee...
Il a fragué
du nazi, il avait une autre apparence, il était même pas jaune, il était une bagnole.
Alors que tu le vois arriver dans le premier film.
Oui, alors qu'on le voit arriver de l'espace.
C'est la franchise la plus pétée des dernières années, de toute façon.
Et ça passe crème dans l'histoire, c'est genre, mais oui, on l'a toujours dit, de toute façon. Il a toujours été là, regardez cette séquence où il poutre des nazis, on aurait dit Max et Léon, quoi. Enfin, c'était horrible.
Ah oui. Mais Hasbro, ils font les malins, mais au final, ils y arrivent. Hein.
Non, parce qu'en plus, je crois qu'ils
essaient. Pas avec Joe, mais avec Transformers.
Non, mais je crois que justement, ils essaient de monter un univers partagé entre Transformers et G.I. Joe. Ouais. Et j'ai lu une news cette semaine comme quoi, a priori, ça y est, ils étaient en train de mettre en place le truc et tout.
Ouais.
Fais pas sa tête, hein, c'est pas grave.
Okay, vraiment, moi j'avais lu ces rumeurs, mais ils essayaient même de voir pour peut-être mettre les My Little Pony dans le délire à un moment.
C'est vrai, oui, mais ça c'est du Reddit.
Alors, c'est pas du Reddit, c'est une vraie. C'est une rumeur officielle.
Michael Bay. Déjà qu'il fait Dora l'exploratrice, Michael Bay.
Ah putain, ça c'est vrai.
Bah ouais.
Ouais.
Non, ouais.
Et du coup, nouvel univers étendu avec Diego ensuite, tu vas voir.
Oh my god.
Shipper le film.
Shipper Begins.
J'avais un pote, il avait fait une BD où Shipper allait en tôle. Alors, s'ils reprennent son scénar à lui pour faire le film Shipper, moi je prends, tu vois. Shipper contre les Portoricains dans la tôle, je trouve ça super sympa.
dans l'Amérique de Donald Trump.
Non, puis sur la question de l'univers étendu, je crois que le problème aussi fondamentalement, c'est que les, enfin en tout cas chez Marvel, je trouve que les possibilités narratives qu'offre un tel dispositif, elles n'ont pas été explorées. Et pour une raison très simple, c'est que c'est, je pense qu'à mettre en place, c'est un calvaire.
Mais est-ce que c'est pas les seuls à avoir ces moyens-là justement de pouvoir se dire, mais c'est parce qu'ils sont dans une logique évidemment de produit commercial, ça fait son petit milliard, machin, tout ça. Là, vous m'avez dit tout à l'heure avant l'émission, 500 millions d'entrées, c'est ça pour
500 millions de dollars
pour Thor 3. Enfin, voilà, c'est ça roule quoi, tranquille. Donc ils ont même pas besoin de prendre de risques en fait. C'est-à-dire, et le peu de risques qu'ils prennent, bon bah ça passe quoi. Ça fait que ça fait un film peut-être un peu plus intéressant que les autres. Mais au final, ils pourraient prendre ces risques là. Avec la thune qu'ils ont de nous faire du Docteur Strange qui va dans des univers parallèles, de nous faire des machins.
Il faut qu'il y ait les mecs derrière parce que Whedon il a abandonné. Enfin, ils sont, je sais pas combien à chaque fois à se casser les dents et abandonner parce que c'est ou trop complexe ou qu'ils sont trop en business.
Ils sont bridés en fait par la prod.
Mais c'est ça surtout parce que là, Marvel actuellement, ils peuvent avoir qui ils veulent. Il y a pas de souci.
Non, mais voilà, mais qui décide alors?
T'as ce que tu veux avec la thune que tu veux, fais ce que tu veux.
Mais le problème, il est humain. C'est juste que je pense qu'il y a un niveau, ça doit être très épuisant. Je pense que ça doit être aussi crevant d'être président à l'heure actuelle, de dire que tu as la gestion de tout l'univers Marvel cinématographique. Enfin, tu as des trucs. C'est un milliard de budget, le dernier Avengers, je crois. C'est le plus gros budget.
Non, c'est à 500 millions les deux.
Ouais, mais comme ils le considèrent comme un film, du coup, ils n'ont pas arrêté de faire la promo Marvel, comme quoi, ça y est, le plus gros budget de l'histoire, un milliard pour un double film, quoi.
Un milliard.
Non, c'est 500 millions. Oui. Pour les deux.
Pour les deux ? Ah putain, moi j'ai lu 1 milliard, 500 millions par film.
Je pense que c'est, non, c'est 500 millions pour les deux, donc je pense qu'effectivement avec le marketing, on va frôler le 700, 800 millions le total. Quoi. Mais bon, ils les rempliront sans aucun problème.
Sans forcer.
Tranquille.
Mais c'est pas une question de thune en fait, c'est juste que si tu te dis, ok, on va avoir un univers où tu vas avoir un film sur tel personnage, on va appeler A, un film sur B, un film sur C, et puis le film où ils vont tous se recroiser et derrière machin, en fait il faut. Il faudrait tout faire en même temps.
Il faudrait
faire ça comme une série en fait. Faudrait faire réunir un pôle de scénaristes monstrueux, que tous les scénarios soient pliés en même temps pour être sûr que tout soit super cohérent, etc. Et ensuite filer ça au réel avec les mecs en qui les films à la suite.
Moi je pense qu'il y en a un qui a été con, c'est le mec qui fait les caméos là dans tous les films, comme il s'appelle
Stan Lee.
Moi je pense que ce mec là, apparemment, si c'est lui qui a écrit les BD, il aurait dû à la fin des années 60, début des années 70, commencer à plancher sur son MCU, tu vois.
Et à son MCU.
Bosser pendant 30 ans dessus et à la fin des années 90. J'ai dit, les gars,
c'est parti.
Je vous amène,
voilà, je vous amène le dos.
Il y a 35 films. Vous faites ce que vous voulez. Mais ça, c'est écrit, tout se tient.
C'est clé
c'est
en
fouillé,
main.
C'est dense, c'est voilà.
Parce qu'on,
et là, bim.
Quand tu recoupes avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Thor Ragnarok, qui est un film qui s'en bat les couilles, tout, voilà. Bon, c'est triste, mais en soi, sur le papier, il y aurait tellement moyen de faire un truc narrativement hyper important qui monte, qui ne cesse de monter bien en termes d'enjeux, etc. Tu vois, c'est con, mais. Donc on va bientôt se taper le fameux Avengers 3 et 4 avec la fameuse menace de Thanos qu'on utilise depuis la première scène post-générique d'Avengers. Et qu'on revoit toutes les scènes post-génériques, mais ce mec-là, tu vois, il pourrait faire monter la sauce depuis 5 films, quoi, et voir le type arriver petit à petit, et tu vois, et vraiment te poser des trucs sur la table en mode tu vas te taper le méchant suprême de ouf de malade. Au final, c'est des scènes post-génériques, on s'en bat les couilles, quoi.
Mais là, c'est parce que c'est la faute de Whedon, on va dire, dans l'absolu, parce qu'il a lancé Avengers en mode un peu sitcom. Et je pense que Marvel, maintenant, ils ont décidé que ça va être des histoires de personnages. Moi, ce que j'ai entendu, c'est une rumeur, mais je crois que c'est les premiers mecs, ils ont eu le temps de voir le tout début d'Avengers à la Comic-Con, les premiers shootings. Et en gros, là, la rencontre, c'est les gardiens de la galaxie, ils sont dans leur vaisseau. Et littéralement, Thor arrive sur leur pare-brise, quoi.
Ce que t'es déjà dans Avengers 1, en plus.
Super.
Avengers 1, Thor tombé sur leur vaisseau. Ouais.
Hey gars, c'est des super-héros aussi, putain,
super, Avengers. Ouais, c'est ça.
C'est la même scène.
Mais là, c'est genre,
ça va vraiment bien.
Il tombe sur leur pare-brise comme une mouche, et du coup, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Clop, connexion. Ouais, ça veut dire que, pour moi, la connexion la plus simple, si je me dis, mais pourquoi le Star-Lord, qui est terrien, il a jamais voulu revenir sur Terre, enfin, maintenant qu'il a réglé tous ses soucis, il veut pas juste voir ce qui s'est passé sur sa planète, ce que sont devenus ses grands-parents.
C'est-à-dire, c'est qui ces mecs qui veulent?
C'est ça, c'est genre, bas les couilles, et je me dis, il va falloir qu'un putain de connard arrive sur un pare-brise pour qu'il dise. Faudrait peut-être qu'on aille voir ma planète.
Il y a des grosses mouches ici
depuis 40 ans. Et tout.
Non, puis elle en plus, maintenant ça s'étend aussi. Enfin, maintenant, ça fait quand même quelques années du coup. Maintenant, mais ça s'étend aux séries aussi. Est-ce que du coup.
Non, mais ça, c'est un projet avorté aussi. Hein.
De relier les séries et les films.
Par exemple, les séries Netflix, dès la série Daredevil, il faisait plein de références à au fameux incident de New York, comme il l'appelait, en disant ouais, vous inquiétez pas, ils seront dans les Avengers 3 et 4. Au final, il n'y aura personne. Finalement, la connexion entre la partie cinéma et la partie série télé, je crois que c'est aussi des problèmes de production. Je crois que en fait, la boîte Marvel Télévision, elle est un peu en froid au plus haut niveau de l'échelle avec les mecs qui gèrent la partie cinéma. Il y a une histoire comme ça. Ce qui fait qu'au final, bah, tout est parti en couille. Et ils se sont dit, bon, vous faites votre truc, on s'en fout.
Jean-Jacques et Jean-Guillaume s'aiment pas à la machine à café, que t'as pas de connexion.
Je crois que c'est un truc comme ça.
Au final, c'est dans une moindre mesure, enfin, dans une plus grande mesure, c'est un peu ce qui se passe aussi pour. Pour certaines licences de super-héros, du coup, le fait que les X-Men et que Spider-Man appartiennent à Sony, à la Fox, tout ça, ça fait que il y a des connexions qui étaient pas possibles à l'époque, qui sont un peu plus possibles, par exemple, avec ce Spider-Man qui s'incruste dans les Avengers.
Spider-Man n'avait pas marché, Spider-Man 2, il s'est méga viandé. Du coup, Sony ont dû revoir tout leur plan parce qu'ils avaient
Mais Mister Six, tout ça. Là.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup,
ils font toujours Venom.
C'est prévu encore.
Ils sont en tournage.
Ça fait deux semaines qu'ils sont en tournage. Mardi et tout.
C'est Guy Ritchie ?
Non, c'est pas Guy Ritchie. Guy Ritchie, il fait Aladdin. Chacun son truc.
Ouais. À la 2, tu veux dire?
Ah non,
c'est pas le même. Ah oui, parce que Disney, ils veulent faire aussi leur univers, ils veulent rebooter tous leurs dessins animés en film live, et je suis quasiment sûr qu'à un moment ou un autre, ils vont glisser des scènes post-génériques comme quoi.
Où c'est lié.
Simba, il a vu Mulan.
Moi, je vois Dembo arriver comme
c'est ça.
Mais je l'ai jamais vu cet animal.
Dembo qui s'écrase sur le paresse.
Dembo reviendra.
It's Dumbo.
Dembo reviendra.
Dans Dumbo.
Au final, eux s'en tirent pas trop mal.
Sur leurs adaptations live.
Ouais, franchement.
Bah,
j'en ai vu dit, mais ils ont fait quoi, la jungle.
Le livre de la jungle, oui. Et à côté, t'as La Belle et la Bête. C'est
oui,
des.
Ah oui, c'est vrai, ça je l'ai pas vu.
Bah, moi je trouve que La Belle et la Bête, en fait, il est pas mauvais comme film, c'est juste que c'est La Belle et la Bête en live.
Moi je trouve que c'est La Belle et la Bête en live, mais fait par des cosplayers de Japan Expo, quoi, si tu veux. Enfin, franchement, c'est naze. C'est naze à tous les possibles.
Je pourrais être K-pop.
Mais il y a ça.
Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, pour se la jouer un peu, on a fait un nouveau produit, ils ont rajouté une partie.
Oui, ils ont rajouté des.
Ils ont rajouté une chanson qui ne sert à rien, parce que ce que j'expliquais à un pote, c'est. Tu fais des chansons, c'est de la comédie musicale, tu dois expliquer des choses que tu peux pas dire en parlant. Là, il dit à la belle, vous me manquerez. Et sa chanson, c'est « Maintenant, elle est partie, elle me manque. » Je fais « Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ta chanson de merde ?» Enfin, putain.
Mais t'as pas de cœur, tu comprends pas, elle lui manque, putain.
Mais oui, putain, et l'origin story, la mère de Belle, elle est emportée par la peste. Quoi. Enfin, mais qu'est-ce qu'on en a à battre ? On est dans un putain de château magique avec des meubles vivants et une bête que j'en ai à foutre de la peste.
Oui, on se demande du coup
pour cœur.
Ouais. Mais oui, j'ai pas de cœur.
Tu es sans cœur.
Passer les larmes, on se dit qu'effectivement.
Non, mais Aladdin, savoir que les musulmans, il y avait des voleurs, on leur coupait les mains,
Watson,
super.
Elle
juste,
okay.
Voilà.
Elle était pas venue ici pour souffrir, ok.
C'est bien les univers
en plus,
étendus.
Sur, les, sur cette question d'univers étendu, mais.
Ça rejoint aussi la guérison du live.
Je pense que voilà, c'était ma dernière participation à l'émission.
Il y a aussi le truc par rapport à cet univers étendu et notamment aussi au fait qu'ils réadaptent aussi tous les films, c'est que c'est des mecs extrêmement frileux en fait, les producteurs. Ouais. Et pourquoi Marvel ça marche, je pense aussi que c'est évidemment du côté du public, c'est que t'as une marque qui est installée. Et le fait que les films se ressemblent, c'est aussi se dire les parents ils savent ce que les gamins vont voir. Parce que quand tu vas voir un film Marvel aujourd'hui, à peu de choses près, tu sais déjà le film que tu vas voir quand tu rentres dans la salle, parce que t'auras les mêmes blagues, les mêmes scènes d'action, les mêmes trucs.
Ça, tout bêtement, tu mets ça en compte avec l'inflation du prix du billet, de cinéma. Les gens, quand ils veulent aller au cinéma, non, ils veulent être sûrs de ce qu'ils vont voir.
Ils veulent être sûrs qu'ils vont être contents.
Parce que s'ils vont voir un Marvel, ils s'assurent un minimum de divertissement.
Ils vont voir leur film de 2h30,
avec une grosse CGI, ça va péter tous les côtés, ça va être en 3D, ça va être génial, et voilà.
Mais c'est pareil pour tous les films maintenant. La La Land, bon, pas bon, on s'en fiche, mais il a énormément marché parce que c'est une comédie musicale. Beaucoup de gens se sont dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une bonne comédie musicale. Tout le monde me dit que c'est une bonne comédie musicale. Ça me rappellera mon enfance, ça me rappellera.
Ouais, c'est du revival.
Dans les années 90, il y avait 12 000 comédies musicales. J'adorais.
Non, mais je pensais, quand on parlait des parents, je pense, ma mère à son époque, il y avait énormément de comédies musicales. Je pense qu'elle était, c'est quoi ce film? Ça a l'air vachement bien. Elle n'a rien à foutre du cinéma.
Oui, mais
maintenant.
Si tu veux, La Land, il n'a pas la facilité de production d'un Marvel.
Non, je dis vraiment, c'est pas le problème, je dis juste maintenant, en général, c'est même pas que pour les Marvel, c'est en général le public est frileux. Ça, c'est
là où c'est triste parce que tu te dis effectivement, et bon, ça aussi, ça peut très bien s'appliquer à un Star Wars, surtout quand tu vois Star Wars 7. Tu dis, c'est des franchises qui ont un boulevard. C'est-à-dire que, non, mais littéralement, Star Wars 7 aurait pu être réalisé par Brett Ratner, par Guy Ritchie, par n'importe qui. Le film aurait fait 2 milliards.
Brett Ratner, c'est mort,
on s'en fout. Mais le film aurait de toute façon fait 2 milliards parce que c'est Star Wars, parce que c'est une licence que tout le monde connaît, voilà, tu vois. Et Marvel, c'est pareil, il y a marqué Marvel sur l'affiche. Alors, tu sais, il y a une époque où on se disait, est-ce qu'un film avec un arbre qui parle et un raton laveur qui frague, est-ce que ça. Les gens, ils sont allés, il y a marqué Marvel dessus, ils s'en foutent de savoir que c'est les Gardiens de la Galaxie, que c'est Avengers, que c'est Iron Man, que c'est Black Panther, tu vois, et bon, voilà. Mais tu te dis, au final, t'as un terrain de jeu de ouf. T'es quand même dans un univers imaginaire qui est assez dingue, qui a plein de propositions à faire. Les gars ont un putain de boulevard devant eux et au final ils te font toujours le même film. Et c'est là où je suis magique, quoi. Parce que tu dis, tu vois, genre Strange, Doctor Strange, c'est pas un film que je déteste alors que j'y allais à reculons. Bon, c'est Laisse-moi finir. C'est écrit comme Iron Man, c'est les mêmes blagues qu'Iron Man, etc. Mais je trouve que bon, esthétiquement, t'as quand même 2-3 propositions, notamment à la fin, etc. Mais tu te dis, putain, vu le matériau de base, ils auraient pu partir 150 milliards de fois plus sans couilles, quoi. Mais la fameuse scène où il trippe en une minute avec les mains qui se multiplient, machin, tout le film aurait dû être comme ça, limite.
Bah oui, mais c'est pour ça que d'ailleurs, que quand ils ont annoncé qu'ils feraient Doctor Strange, on s'est dit, ah ouais, Doctor Strange, vraiment, je préférerais pas en faire d'autres avant parce que c'est quand même très chelou, Doctor Strange et tout. Ah non, c'est pas chelou, regardez.
Inception.
Allez, c'est fini.
C'est Inception et Iron Man.
Génial.
Allez, on va reprendre Tony Stark et on va faire le même personnage. Ouais. On va un peu modifier le personnage du Docteur et parce que pour le coup, je trouve que là, c'est vraiment le film où j'aime bien limite de Benedict Cumberbatch et là, je me suis dit. Mec, t'en as rien à foutre du rôle.
Correctement, je
trouve que ça. Là, sérieusement.
S'il vous plaît, merci.
Non, genre, le mec, il s'en fout un peu.
Ah non, mais il s'en bat les
couilles. Je trouve qu'il est pas vraiment perso, quoi.
C'est un des plus intéressants.
Puis dans Thor 3. Parce que là, ça y est, on est parti, là, dans Thor 3. Là, les personnages rentrent vraiment dans les films des uns et des autres, etc. En Thor 3, c'est ridicule.
C'est preuve de l'inutilité du truc.
C'est ridicule.
Enfin, moi, j'avais oublié qu'il était dedans, en fait, quand je suis censé la salle.
Ah oui, je viens de me rappeler, tu vois.
C'est vrai qu'il est dedans.
Mais oui,
il est dedans.
Qui est d'ailleurs la scène post-générique du précédent.
Mais c'est ça, c'est pas
genre. Ah, Cédric, il est content d'être venu.
Mais c'est littéralement la même scène. C'était la scène post-générique de Doctor Strange. Où il voit Thor, il fait ah, vous avez un souci, je veux vous aider.
C'est juste quand tu fais la transition.
En fait, c'est là où c'est dingue, c'est que tu peux la retirer du film.
Elle ne change rien.
Le film, sa valeur narrative n'a aucune fluctuation. C'est la même chose. C'est du bonus, quoi.
Thor 3 pourrait tenir les 3 scènes, en fait. Parce que tout le reste, tu pourrais le retirer du film et ça change rien au film.
Mais tu vois, c'est là où c'est terrible, c'est que tu dis effectivement, connecter tous ces univers-là, etc., ça pourrait être super intéressant, ça pourrait enrichir le truc à chaque fois. En fait, non.
Mais est-ce que c'est pas hyper bridant narrativement, enfin, vu comment eux gèrent leur truc
Mais tu vois, quitte à y aller vraiment, autant vraiment faire un truc interconnecté à fond, quoi.
Est-ce que du coup, parce que moi là, pendant que vous parlez de ça, je vous écoute pas et je pensais
il est comme Thor Ragnarok, il s'en fout.
Je regardais par la fenêtre et je pensais en termes de, parce que je me disais, merde, on n'a pas eu un truc là récemment de super-héros qui commence à initier un truc de connexion et tout. Mike Shyamalan. Qui nous a fait son petit twist de Split. Je suis désolé si vous n'avez pas vu Split. Son petit twist de Split, c'était quand même de nous intégrer Split à Incassable. Et pour nous teaser la suite avec Glass, qui est en tournage là.
Ouais. Ah, il a teasé parce que ça a marché. Hein, parce que le film se serait viandé, il n'aurait pas du tout teasé Glass, je pense.
Oui, mais on sentait quand même à la fin de Split que ça ouvrait vers une suite, vers
un final. Disons que la scène de fin de Split, ce qui était bien, c'est qu'elle marchait comme clin d'œil aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ouvert pour dire pour y avoir une suite, mais ça pourrait très bien marcher comme un simple clin d'œil à l'ancien. Tu connectes les deux films. Et voilà.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand t'enlèves cette scène-là, juste quand tu vois la scène de McAvoy qui est tout seul à la fin dans son, juste enlève la scène avec Bruce Willis. T'as juste McAvoy à la fin qui est genre qui se cache devant une glace, machin, qui est dans une espèce de petit appart. Tu sens que c'est ouvert un peu vers une suite avec la petite qui est recueillie par la police et tout. Il y a même pas besoin de mettre Bruce Willis. On n'y pensait pas forcément.
C'est une fin ouverte.
Et après, il te rajoute Bruce Willis, qui fait que bon, bah ok, c'est intégré. Est-ce que
fin ouverte, ça veut forcément dire suite aussi tout le temps? Il y a plein de films qui finissent avec des fins très ouvertes.
Ah oui, non,
n'attendez pas de suite pour autant.
Bien sûr. C'était cool et c'était assez audacieux, mais je pense d'un point de vue, parce que tout ça, là, les universes, c'est la production.
Oui.
Là, je pense vraiment que.
Oui, parce qu'après
le délire de Shyamalan, c'est vraiment un délire d'auteur.
Oui, de trilogie plus que.
Moi, ce que j'aime, c'est les comics, c'est tous ces misfits qu'on peut trouver dans la bande dessinée. C'est ce qu'il avait fait avec Incassable. C'est pour moi d'ailleurs une bonne adaptation de BD de super-héros au cinéma. Il s'est dit qu'il avait envie de continuer de faire ça et de faire une trilogie, alors il le fait.
Mais après,
je pense pas qu'on puisse le comparer à tout ce que fait Disney ou même Universal ou tous les autres, qui même Jason Bourne ou James Bond ou tout ce que tu veux, les Fast and Furious. Je pense que c'est pas du tout la même logique de production.
C'est
une façon intéressante, parce qu'en plus on parle de super-héros, de parler de super-héros dans des suites. Effectivement, plus intéressant que ce que fait Marvel, sauf que ce ne sont pas des héros identifiés.
C'était prévu depuis le début, parce que je crois que en fait, le personnage de McAvoy devait être à la base dans Incassable. Et il s'est rendu compte que narratif, ça aurait fait un film de 5 heures, quoi. Donc en fait, il l'a viré. Nous, on l'avait vu en masterclass après la projection de Split, et il disait bien qu'en fait, c'était un truc prévu depuis super longtemps, et que c'était un espèce de fantasme de mettre sur pied cette trilogie-là. Et encore une fois, c'est. Aussi, le truc, c'est juste une trilogie. Ça va faire. Il part en couille et j'en sais rien, mais le mec a dit qu'en fait, il veut juste faire 3 films. Donc, c'est une saga, il n'y a pas non plus l'aspect connecté de 15 films les uns aux autres, quoi. Et c'est encore, et puis c'est voilà, c'est un type qui contrôle effectivement l'intégralité du récit de son truc, donc ça va pas être aussi tentaculaire que l'est l'univers Marvel ou que éventuellement le Dark Universe, quoi.
Alors que tu penses à le prochain univers étendu qui va faire parler de lui, c'est 20 Jump Street avec Men in Black.
C'est pas annulé, ça?
Mais ils le font, non,
non, annulé, ils le font toujours.
Ouais. Non, c'est annulé,
ouais. Ça y est,
ouais, bah, ils ont annoncé qu'ils feraient un spin-off à Men in Black, qui serait une sorte de reboot, mais il n'y aura plus à Jump Street. Mais le pire, c'est qu'en plus, quand tu réfléchis
à jamais à la quelque chose.
Ouais. Un spin-off qui serait une sorte de reboot, mais qui serait en fait un crossover en forme de préquel.
Mais ce sera juste, ils veulent juste faire une suite, en fait, en gros, Men in Black.
Oui, ouais.
Mais en plus, cette idée-là, fondamentalement, je sais pas vous, mais moi, voir Channing Tatum débarquer chez les Men in Black, moi, ça me fait marrer. En fait. Ils voient les deux couillons qui arrivent, qui font « Ah, des extraterrestres !» Il y avait un truc à jouer, quoi, tu vois.
Ouais, surtout que Men in Black 3 est pas mal, quand même.
Ouais.
Oui, pour le coup. Ouais.
Mais moi, j'adore Men in Black, sauf le 2 qui est un peu pété. Mais,
ouais, le 2 un peu pété.
Mais le 3 était pas
le
mal.
Le 3 était très cool. Hein.
Et du coup, pas cette Tommy Kong.
Ah oui, il y a ceux-là aussi. Ouais, le morceau qui restait aussi. En termes de, là, de, ouais, un peu d'univers partagé, ouais, les Kaiju.
American Kaiju.
Parce que mais ça, après, c'est aussi une tradition, en fait. C'est que les films de monstres qui se croisent et se foutent sur la gueule, ça existe depuis le nuit des temps. Hein. Godzilla.
Pas avec ce budget-là.
Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est à un changement d'échelle en termes de production. Mais Godzilla, c'est déjà fighté contre King Kong dans un film que tout le monde a sûrement oublié dans les années 50, faisant comme ça, quoi.
Deux mecs en costume, en train de.
Avec deux fins, dans des en maquettes. Plus, t'avais une fin pour le Japon, une fin pour. Pour les États-Unis,
ou
un
gagnant. On demande pas qui.
Mais les gagnants changeaient en fonction du pays, tout simplement, pour pas froisser les
petits Ikea.
Et ça serait bien qu'on fasse ça pour les Marvel. Il n'était pas question d'intégrer aussi Godzilla ou je sais plus quoi à Pacific Rim. Il y avait pas.
Je crois que c'est le réel de Pacific Rim Uprising, Steven Dinah, qui expliquait qu'en fait, Del Toro l'avait déjà évoqué, mais je crois que lui a appuyé le truc en mode ouais, en fait, si Pacific Rim 2 ça marche, il y a moyen.
C'est parti.
Et bah si c'était Del Toro qui le faisait, why not? Mais si c'est Steven Dinah, quand tu vois le trailer de Pacific Rim 2,
tellement peur.
Et en plus, il y a des déclarations où le mec dit. Les mecs avouent ouvertement que ça va être un film plus proche d'un Marvel dans l'esprit.
Ouais. Voilà. Mais j'avais déjà pas envie de le voir. Voilà. C'est fini. Merci pour tout.
Comment couper toute envie de voir ce film?
Non, mais comme quoi les mecs sont un peu déconnectés de se dire. Enfin, déconnectés, non, pas tant que ça en fait, puisque.
Bah,
il suffit de prononcer. Non, mais ce que. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il suffit de prononcer le mot Marvel pour faire apparaître des petits dollars dans les yeux, mais que paradoxalement, le public en a un peu marre, mais va quand même les voir. Enfin. Quand est-ce que ça va exploser?
Je pense que le public supporte Marvel parce qu'ils font Marvel, mais enfin, j'ai pas envie de voir Pacific Rim Marvel. Tu vois. Je voudrais voir Pacific Rim parce que c'est un univers qu'ils ont créé, un peu sérieux, avec un peu d'humour, un peu machin. Enfin, pourquoi faire du Marvel? Enfin, ça sert à rien. Ils ont créé un truc déjà. Del Toro, il a fait un putain de boulot. Enfin, tout niqué pour ça. Tu me déprimes. J'étais pas au courant de ça. En revanche, cette déclaration.
Ah, mais de toute façon, Steven Dinah, mec. Hein,
mais c'est comme des déclarations. Enfin, mélanger ça avec Godzilla, quoi. Déjà, Godzilla, c'était une purge, ce truc. Donc, enfin. J'espère vraiment pas qu'ils vont mélanger ça, quoi.
T'as vu Kong Skull Island?
Ouais, c'était encore plus une pure.
Godzilla, c'est un
mais le truc, c'est que Kong, tout le monde me le vend comme un chef-d'œuvre, en tout cas un très bon film, et je ne comprends pas. Et plein de gens me disent Kong, parce qu'il a une très belle image, qui est vraie. C'est vrai qu'il a une jolie photo, ça je veux bien le reconnaître.
Mais encore.
Non, mais limite, il y a un côté, parce que j'ai pas du tout aimé le film, je rappelle le cinéma. En sortant du cinéma, j'étais pas content.
J'étais pas content.
T'as la même projection que toi, à la Villette, j'étais pas content, voilà.
Pas convaincu de cette.
Et après, le temps a fait que je me suis dit, j'étais un peu dur avec le film au final. Si je le prends comme une série Z, je me suis dit bon, il y a eu pire quoi. Il y a eu pire parce que les scènes de fight.
Cette réaction-là, c'est la réaction de tout le monde en fait, en ce moment, surtout en fait, sur toute la culture en général, ce qui fait que les Marvel Mages, ben ils sont là,
c'était bien moins con, je trouve. C'était bien moins con. C'était pas le même genre de conneries, tu vois.
Que
genre, Brie Larson, la future Captain Marvel, elle prenait des photos, tu savais pas trop pourquoi elle prenait des photos, etc. Mais c'était con, mais pas de la même façon que je trouve que le. C'était pas cynique. Tu vois, il y avait pas le cynisme. Oui.
C'était un peu clair d'œil. On sait que c'est débile, mais on s'amuse, quoi.
Mais au moins, Kong. Tu voyais les scènes de combat, quoi. C'est-à-dire que Godzilla, tu les vois même pas, quoi. Faut attendre 2 heures de film pour voir enfin. Enfin, mais je vais pas voir un monstre.
Mais Godzilla, c'est pas le même traitement. C'est Godzilla, c'est un film qui prend le monstre au sérieux.
Ouais, mais tu peux pas me lier les deux univers ensemble, tu vois. Enfin,
ça, c'est le problème, on est d'accord. Mais
Marvel, ils essayent de le faire, ça marche à peu près ce que ils ont réussi petit à petit. Ils ont mis de plus en plus d'humour pour uniformiser leur truc, on va dire, à niveau d'humour. Mais Godzilla, c'est un méga truc super sérieux, dramatique, avec des tonnes de morts. Kong Skull Island, c'est limite vacances au Club Med.
C'est des barbouzes qui vont sur une île et il y a un gorille géant.
C'est Predators.
Shane Black,
c'est Shane Black bientôt, ouais. Ouais.
The Predator.
J'ai un peu peur là, qu'est-ce qui va se passer dans la ville, non, c'est ça?
Comme Predator.
Ouais, Predator dans la ville. Ouais. C'est un remake d'un film français. J'aurais peut-être mis Missy.
Ils seront pas dans la jungle, si j'ai bien compris. Là, la
non, c'est en ville. Comme Predator 2.
Ouais, parce qu'en fait, oui, l'idée de Predator 2, ouais. Mais bon, Shane Black, c'est pas mal.
C'est Shane Black, quoi. C'est quand même le meilleur film Marvel, hein. On peut le rappeler. Pardon, merci.
Non, Captain America.
Bon, on va y revenir. Bon, allez, si, tenez, on va faire ça maintenant. Votre Marvel préféré, là.
Alors, attends, du Marvel Universe.
Parce que sinon, c'est Spider-Man.
Oui, voilà, non, ouais, oui, on va virer les bons. Voilà, ça, on va virer les bons parce que c'est pas marrant, sinon. Dans le MCU, qu'est-ce que vous recommanderiez de voir, Bastien?
Ouais. Vas-y, Bastien.
Bah, je vais rester sur ma ligne directrice, je vais dire Iron Man 3, parce que Shane Black, parce que c'est un peu construit, même s'il y a plein de problèmes, hein. Le film est tout sauf parfait, il y a des tas de problèmes, mais globalement ça fonctionne, et il s'intéresse à son perso, et il fait faire des trucs, il évolue un peu, enfin il se passe des choses, quoi. Ouais, donc juste pour ça j'étais chaud, quoi.
L'humour ici raconte quelque chose, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est Shane Black, c'est tout, Shane Black. Shane Black.
Shane Black, Shane Black, Shane Black.
Shane Black
et
Shane
Robert Downey Jr.
Et Shane Black, quand même.
Lucas.
Moi, c'est Spawn, Daredevil et...
C'est vrai, Spawn.
Il va pas y avoir un remake de Spawn?
Si. Ouais, si.
Bien sûr, évidemment qu'il va y avoir.
Putain, j'ai saigné Spawn quand j'étais petit.
Ouais. Ouais, moi aussi, je l'aimais quand j'étais petit. Hein.
J'ai rodé, le clown me fascinait.
C'est qui le clown? Pareil. Qui jouait le clown?
Le clown Pétoman, je sais plus qui est-ce qu'il jouait. Non, il pète, il en a des souvenirs, il lâchait des grosses caisses dans le film.
Non, mais ce que je veux dire, c'est
le seul souvenir qu'il a de Spawn, le clown qui pétait.
Ouais, non, mais surtout que j'imagine des gens qui n'ont pas vu Spawn, du coup, le clown pétoman, t'imagines un espèce de Ronald McDonald qui pète.
Alors que
c'est une espèce de gros monstre horrible.
C'est un gros cafard horrible.
Ouais.
Il est dégueulasse, on dirait Mr. Boogie Woogie dans L'étrange Noël de Monsieur
Jack. Croisé avec It.
Non, alors oui, Iron Man 3 de Shane Black, que j'aime bien. Et puis sinon, j'ai de l'affection pour le Captain America Civil War. Je me rappelle, je l'ai vu au cinéma, zéro prétention. Non, c'est bien celui-là, Civil War, où il se tape. Ça se trouve, je les confonds à celui avec l'aéroport. Ouais. J'y suis allé, je me suis dit putain, je me rappelle la bande-annonce, j'étais moyen chaud. Et j'avais pas trouvé ça dégueu le précédent film des frères Russo, là, donc c'était Winter Soldier. Ouais. Même si je trouve que c'est un gâchis total, le personnage de Stan, du Winter Soldier. Je trouve que putain, il manque un truc à ce personnage-là. Et j'ai du mal à croire qu'ils se fightent les uns contre les autres à cause de ce personnage un peu fade, en fait, dans la façon dont il nous les a présentés. Mais dans Civil War, j'avais été agréablement surpris. Ouais. L'action se tenait bien. Et puis justement, c'était la première fois au cinéma que je trouvais que justement l'univers étendu, tous ces personnages-là, fonctionnaient plutôt correctement. Et surtout, il y avait un aspect assez organique au début du film. Tu sais, les 40 premières minutes où tu réintroduis tous les personnages là, on passait super bien d'un personnage à l'autre sans que ça fasse ultra pompeux et on va les chercher, on les représente. Et en fait, ça paraissait logique par rapport à l'histoire qu'ils étaient en train de raconter. Et
il fait des signes.
Ouais. On va rendre le studio qu'on est en train de louer pour cette émission. Et du coup, je trouvais que ça fonctionnait vachement bien.
D'accord. Mais Civil War, j'en ai gardé un bon souvenir aussi. Même si, du coup, ça fait que la première mission de Spider-Man se passe à Berlin, mais bon, c'est une autre histoire. Genre, Spider-Man et Spider-Man pour la première fois à Berlin.
C'est Spider-Man dans Civil War que dans tout le film Homecoming, en fait.
Tu vois,
c'est pas intéressant sur l'aspect univers qui fonctionne, parce que c'est vrai que. En fait, c'est un truc auquel les gens pensent pas forcément, mais à partir du moment où t'as fait rencontrer les personnages, et c'était notamment un des gros soucis de la phase 2 de Marvel, c'est que tu te dis pourquoi est-ce que dans Thor 2, quand t'as quand même une onde qui est en train de se faire attaquer par des extraterrestres, exactement comme à la fin d'Avengers, il y a que Thor. C'est-à-dire, ils sont où les autres, quoi? Pourquoi ils viennent pas? Et effectivement, si tu le vois, ça marchait parce que, au final, ils se recroisaient tous, machin, quoi. C'est tout ce que je voulais dire.
Non, mais en plus, en fait, de poser les fameuses questions, que ça n'a pas été inventé pour le film, mais de poser les fameuses questions un peu, réflexif sur les super-héros, de qu'est-ce que c'est qu'être un héros, est-ce que c'est pas être un héros mais être un super-héros, être un justicier, est-ce que c'est être au service du gouvernement, ou est-ce que c'est
qui était la notion de héros a été pas mal oubliée dans les films Marvel quand même depuis très longtemps.
Mais oui, ce qui fait que du coup la thématique de Civil War tombait un peu plus comme un cheveu sur la
soupe. Dans le comics, ce que tu viens de dire sur qu'est-ce qu'un héros, j'étais scotché, hein. J'ai ce petit gamin à la con là. ce Spider-Man là.
Tu lui.
Je te jure, j'ai pas compris le film en fait.
Alors c'est un mec qui se fait mordre par une araignée.
J'étais en train de me dire, est-ce que, après c'est ma vision du monde, mais est-ce qu'ils sont en train de nous raconter ce que je crois qu'ils sont en train de nous raconter d'un point de vue politique et humain dans le film. À la fin du film, j'ai dit, ah ouais, d'accord, tu vois, genre, des gens ont essayé de
ouais, très bizarre, la position politique.
La position du personnage, je trouvais ça le rapport à Tony Stark et puis, tu sais, à la fin, la proposition du costume, etc.
Moi ça m'a un
ça
peu,
m'a un peu dérouté dans le film, j'étais un peu
oui, le fait que son opposant soit un mec qui était un col bleu qui
c'est
s'est
un
fait prolo, flouer
ouais, la meilleure scène du film
qui, qui s'est fait flouer par Tony Stark en plus, enfin par l'entreprise qui bosse pour Tony Stark.
Ça fait que juste le 8e film où on dit que c'est la faute à Tony Stark en fait, c'est toujours la faute à Tony Stark, c'est lui qui a tout fait.
Tu veux faire partie des 1% qui fait pas l'ISF? À la fin, c'est ce qu'il dit.
Oui, bien sûr.
Je vais faire partie des 1%. Je vais faire partie des privilégiés. Le Vulture, là, il lui dit, effectivement, son discours.
Mais je trouve ça intéressant. Je trouvais ça un peu intéressant, justement, d'Homecoming, le personnage de.
Comment il s'appelle, Michael Keaton.
Le personnage du Vulture est intéressant, mais je trouvais ça. Par rapport à Spider-Man, qui est bizarre, en fait.
Ouais.
C'est qu'en fait, il est presque trop intéressant pour le personnage de Spider-Man.
Mais c'est ça, justement, je trouve ça bizarre que ce personnage soit droppé là, au milieu de ce film-là, de cet univers-là, de ce truc-là, qui est ce personnage un peu genre critique, genre, oh, ouais, les gars,
justement, bah,
vous avez vu le monde dans lequel vous vivez, quoi.
Parce que tu mets un personnage jeune et inexpérimenté, qui n'a pas encore les valeurs, ses valeurs morales sont encore assez pures par rapport à beaucoup d'autres des personnages qui sont adultes et qui ont déjà leur vision du monde. Lui, on voit que ses préoccupations principales, c'est faire en sorte que sa tante ne découvre pas son secret, que son copain ne découvre pas son secret. Oh là là, il y a une fille qui me plaît.
Non, sa préoccupation principale, c'est d'être pris en stage chez l'Avengers. Hein.
Non, effectivement, mais tu vois qu'il y a toujours, il y a le côté comme dans la BD, il est très geek, il est très passionné par ce qu'il fait, il voit pas toute la craderie que fait Stark, qui est un truc réel, il la voit pas parce qu'il voit juste le mec, c'est Iron Man, quoi. Ouais. C'est l'idole de mon enfance, c'est un putain de génie, c'est un nerd qui a tout ce qu'il veut. Et je trouvais que ça marchait bien, justement, qu'il soit confronté à un mec du peuple, tout simplement, qui lui dise, bah, la vie, c'est pas ça, mec.
Ouais, et que le mec du peuple lui dise que la vie, c'est de la merde, et que Spider-Man lui dise, ouais, mais quand même, c'est pas bien.
T'as parlé de Homecoming, mais vraiment, comme tu disais, Bastien, le rapport au super-héros. Ça y est, j'ai envie de parler de Spider-Man Homecoming. ça va faire 3 heures. Mais je me suis dit, l'élément essentiel qui manque, même si on passe rapidement dessus, c'est le côté Oncle Ben.
Ouais. C'est tout.
Il n'y a pas l'Oncle Ben.
Toujours un
il le.
J'attendais que quelqu'un fasse une blague là-dessus et on l'a faite. Voilà, c'est bon. C'est réglé.
Le truc, c'est que on aurait pu passer dessus genre super rapidement. Là, il l'évoque vite fait. Genre,
Il y a une phrase.
Il l'évoque pas, justement.
C'est censé être
un personnage. On sait même pas pourquoi elle est triste, vraiment.
C'est vrai. Il dit c'est à cause de ce qui s'est passé.
Ah, mais il n'y a même pas de photo de l'Oncle Ben.
Non, il n'y a pas de photo. Et je me suis dit. Je suis peut-être complètement con et je connais pas tout le personnage de Spider-Man, mais alors que pourtant j'ai lu pas mal de BD, je me suis retapé.
Tu es très intelligent, Lucas.
Tu parlais tout à l'heure de Ultimates, en plus il y avait les Ultimates
Spider-Man.
J'avais aussi gamin, j'avais tout relu. Et je me suis dit, Oncle Ben il est ultra important pour la construction du personnage de Spider-Man. Le truc de fou de Spider-Man, ce qui est fascinant, c'est que c'est un personnage qui se construit sur la culpabilité.
Ouais, comme Batman. C'est le même genre de construction.
Ouais, d'une certaine façon, c'est un peu comme Batman.
Tu viens de mettre le mot, je pense qu'ils ont voulu contrer Batman.
Et là, le truc, c'est que. Il se construit sur rien et il se construit pas et il est rien Spider-Man dans Spider-Man Comics. Son délire c'est de se prendre de faire des snapshots de faire des voilà donc c'est l'actualité c'est vrai tu vois mais c'est de faire des snaps en fait et il a un pouvoir bah il chill quoi il se fait kiffer mais c'est quoi être un super héros ou alors ils veulent nous faire croire qu'ils nous expliqueront ça dans la suite plus tard.
Honnêtement c'est plus ou moins ce que la fin du film te donne parce que la fin du film Tony Stark lui dit tiens t'es officiellement admis, t'as une méga armure et il décide de garder son premier costume qui est bien, hein, soyons disant le contraire, mais il préfère se dire tiens, finalement, ce que m'a dit le méchant, ce que j'ai à prendre dans cette histoire, même si effectivement c'est un petit Snapchat de merde, ah, ça me fait un peu réfléchir, peut-être qu'il faut que je commence à plus voir les choses tout blanc, tout noir. Mais oui.
C'est maigre, hein. c'est maigre.
Surtout, c'est un film Marvel, forcément, c'est maigre.
Le truc, c'est que voilà, il y a eu les trois films de Sam Raimi, le premier qui est très bien, le deuxième qui est un chef-d'œuvre, le troisième qui est.
Très bien.
Qui est bien. Constamment descendu, alors que pour moi, vraiment.
Si tous les films Marvel pouvaient avoir la richesse visuelle de Spider-Man 3,
elles me font vraiment limite chialer, quoi. C'est un film qui me plaît beaucoup, quand même.
On parle à X-Men 3,
et je me dis. Là, ils font les petits malins qui redétruisent tout, et pourtant, ils peuvent pas s'empêcher de reprendre des scènes iconiques des films de Sam Raimi, quoi. C'est la scène du bateau, ouais, le côté genre et tu crucifies qui, du coup tu crucifies un personnage qui sait même pas ce que c'est que d'être un super-héros. Donc tu fais ce que fait Sam Raimi alors ton personnage il se construit pas, enfin tu vois, ils refont tout
pareil.
Mecs
n'ont pas compris la puissance aussi d'une image, c'est aussi con que ça, hein. C'est le mec quand il est filmé, c'est dingue.
Faut tout revoir sur le cinéma.
Non, c'est dingue de voir la densité, si tu veux, narrative d'un film de Sam Raimi par rapport à Homecoming. Quand tu prends, c'est con, tu prends le plan de fin du premier Sam Raimi, où t'as Peter Parker qui c'est repart de l'enterrement. Il y a la meuf dont il rêve depuis qu'il est gamin, si tu veux, il la fantasme, il la fout sur un piédestal, qui vient de l'embrasser et lui dit écoute, non, c'est pas possible. Sous-entendu, je suis Spider-Man, si tu te mets avec moi, ça va très mal finir, machin, mais bref. Et donc il se barre, tu vois, le mec, c'est, alors que c'est un petit mec, tu vois, le truc auquel il aspire depuis qu'il est tout petit, il le refuse, et donc voilà, il se sacrifie, et il part là-dessus, donc le truc le plus tragique qui soit, et en face, Homecoming, t'as ton mec arrive qui fait une blague.
Et tu dis ça sur le son des églises.
Voilà, c'est religieux.
Sur l'église à côté.
C'est Sam Raimi, c'est
religieux. On est à l'enterrement de...
Et ton mec arrive qui fait LOL. Enfin, dans Homecoming, quoi.
Tout simplement pour l'oncle Ben, le truc qui me semble le plus... plausible.
On la fracasse, tant que
c'est ce que tu disais par rapport à Batman. Je pense que Marvel, ils ont compris un truc qui est malheureux. Je pense que les gens en ont marre qu'on leur explique la même chose. Spider-Man, ça fait trois fois qu'on nous dit que l'oncle Ben il est mort. Batman, ça fait 10 fois qu'on nous dit oh putain, mes parents sont morts dans la ruelle à cause d'un clodo. Oh là là, j'étais dans le cimetière, j'étais triste. Et on l'a vu avec Batman Superman. Tout le monde dès le début a craché sur la scène d'intro où c'est quoi ? C'est jeune Batman et encore une fois, il voit l'enterrement.
Je suis moins d'accord avec toi là-dessus parce que je trouve que justement, si quitte à le faire, autant de le faire dans le générique et en plus, sachant l'importance qu'il lui donne dans la suite du film.
C'est d'un point de vue dramaturgique, après tout bêtement. Il faut que ton personnage il existe, qu'il ait une.
Je donne une raison juste à leur choix. Enfin, je dis pas, ils l'ont pas fait en mode YOLO, on n'a pas compris, je pense qu'ils savent. Mais ils se sont dit, putain, les gens vont encore râler. Je pense juste que c'est ça. Ils n'ont pas eu les couilles de se dire, on refait la scène une fois de plus de la mort de l'oncle Ben.
Oui, mais après, oui. Tu vois, c'est sur toute la dramaturgie, en fait. C'est juste l'oncle Ben. Tu compares la dramaturgie des films de Raimi par rapport à Homecoming, t'as un monde entre les deux.
C'est pas refaire la scène d'oncle Ben, c'est juste parler d'oncle Ben. Genre, de voir que le personnage de Spidey, il est quand même, de Peter Parker, est quand même concerné par ce qui vient de se passer. Et que c'est peut-être de sa faute ou pas. Tu modifies, mais tu l'évoques quand même, tu vois. Parce que là, ils se sont ni coupables de quoi que ce soit. Et l'aspect prolétaire, le mec qui vient de rien, quand même. Parce que Sam Raimi, là, il retranscrivait bien ça. Le mec, il livre des pizzas. Son repas, c'est un cookie. Enfin, tu vois. Genre...
C'est vraiment une vie de merde.
C'est la merde. Tu vois, c'est la merde. Là, dans Homecoming, bon.
Sachant qu'à la base, on était quand même censé citer les films Marvel qu'on aime bien. Et là, ça fait 20 minutes qu'on défonce Homecoming.
Oui, bah.
Donc, Civil War pour Lucas.
Civil War. Vas-y, voilà. Cédric.
Je te remercie.
Eh ben, bon, Homecoming, donc j'aimais bien le côté prolo, moi, de toute façon. Donc, ça marchait quand même un peu, c'est un de ceux qui marchait le mieux. Sinon, oui, bah, Iron Man 3, je suis d'accord, Shane Black, la base. Et les trois Captain America, parce que je pense que les trois sont assez bons, chacun dans leur genre, et que par rapport à ce qu'on disait, je pense que Captain America, c'est le seul personnage Marvel où ils ont gardé, je pense, à peu près ça.
Sérieux, ouais.
Un minimum de. Il est à peu près crédible dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me disent, mais ça marche pas, pourquoi il va à un enterrement au début du 3? Je fais. En même temps, c'est la meuf qui les met dans le 1, dont il s'est occupé dans le 2 quand il était vieille. Ils me font oh, moi, j'ai pas besoin de savoir ça. Et tout, je fais
oui,
voilà. Tu vas avoir Captain America 3 en même temps. Enfin, tu vas avoir une suite d'un film qui me fait chier.
Et dans Iron Man 3, la meilleure séquence, c'est celle de Brad Bird. Donc, Les Indestructibles.
Mm. Putain Salut Lucas
Non, j'ai dit une connerie, c'était Tartakovsky en fait. Donc, en plus, rien à voir. Rien à voir. On a bu trop de bière.
Mais du coup, non, ouais, du coup les Captain America, pour moi, c'est une assez bonne valeur sûre. Ils sont chacun bons dans leur genre. Et ils ont
et quand tu pars d'une bonne base, déjà, le premier film quand même de Joe Johnston, qui est quand même.
Tu me coupes l'herbe sous le pied.
Pardon, excuse-moi, je vais te laisser parler.
Je voulais te laisser parler. Ouais, mais moi,
c'est
premier, voilà.
Très très loin, c'est le premier Captain America de Joe Johnston. Parce qu'en fait, je trouve que c'est celui qui, à la limite, sort le plus du moule Marvel, dans le sens où. Bon, ils ont pris Joe Johnston, c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui a bossé notamment sur Star Wars, etc. Et qui a fait un excellent film qui s'appelle Rocketeer, que je vous conseille fortement si vous ne le connaissez pas, et qui est de la même manière que Darkman de Sam Raimi préfigure Spider-Man, The Rocketeer, il y a déjà tout Captain America dedans. Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le côté côté film d'aventure à la Lucas, un peu film de guerre, film old school. Je trouve que c'est un film qui a une âme assez, il y a un tempérament assez fou, qui est très différent de ce que tu peux attendre d'un film de super-héros bête et méchant.
Et qui a vraiment l'imagerie du
Captain America, donc genre vraiment
crâne rouge et tout,
qui est très pulp, très en fait. Marqué, c'est un film super
pulp, évidemment. Ouais.
Mais surtout, moi, j'ai beaucoup aimé qu'ils ont, enfin, dans tout ce que tu dis, je suis d'accord. Mais surtout, c'est l'image qu'ils lui ont donnée, parce qu'avant qu'ils sortent, beaucoup de gens critiquaient déjà le fait que ça allait être un film très propagande.
Ouais, ouais.
Et je trouve ça intéressant qu'ils ont gardé jusqu'au bout cette ligne que. Il est pas spécialement pour les États-Unis. Il s'appelle Captain America. Ouais, il est un personnage de propagande. Ouais. C'est pas pour autant qu'il est la propagande. Et même jusqu'à la fin du 3, moi, je suis très Team Captain dans le 3. Donc,
ouais. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça qu'ils ont réussi, c'est effectivement sortir ce truc en traitant littéralement de la propagande dans le film, parce qu'il y a quand même des scènes où ils chantent de la comédie musicale en foutant des coups de poing à Hitler, ce qui déjà est une bonne valeur pour un film. Moi, ça me fait kiffer. Et
déjà, tu peux pas tester.
Voilà, tu peux pas tester. C'est cool. Et ouais, non, je trouve que, en fait, je trouve que c'est dans tous les Marvel, pour moi, c'est celui qui se revoit le mieux parce qu'il a ce côté un peu old school, intemporel, qui est fun. C'est un film qui est candide. Ouais, et c'est pour revenir aussi sur ce que tu disais sur Captain America, effectivement, c'est l'un des rares films Marvel où t'as affaire à un héros. Où t'as affaire à un mec qui se sacrifie, qui en prend plein la gueule et qui en fait revient à la valeur de l'héroïsme basique qui est je me sacrifie pour les autres.
J'ai envie de pleurer.
Et tu renoues ça, et c'est un des rares films où t'as un mec qui t'inspire quelque chose et qui est pas juste un bouffon qui se rétame la gueule en sauvant le monde, quoi. Non, Captain America, c'est un mec qui il en chie, tu vois, il a une vie de merde, mais il y va parce que il fonctionne comme ça, quoi. Et je trouve que le film est vraiment chouette.
Ouais, c'est vrai. En plus, c'est pas forcément celui auquel on. Je non, trouve qu'on repense. Non. Et puis, je crois pas que ce soit le plus aimé non plus des. Mais
surtout dans la première phase, c'est un de ceux qui a le moins marché aussi.
Ouais. Dans le box-office, ouais, c'était le. Non, les gens attendaient les suites d'Iron Man et tout.
C'est le Hulk, les gens l'ont carrément oublié.
Ouais, mais aussi, il est dans la phase 1, le Hulk.
Ouais, le de le tailler.
Ouais, mais il est même pas inclus dans le.
Si, parce qu'il est dans son costume de soda là qu'on voit. Ouais, si. Mais. Bon, je vous remercie en tout cas pour vos avis.
Ton Marvel préféré.
Moi, je réfléchis, mais j'hésite entre Iron Man 1 parce que c'est avec lui que je crois que c'est le Marvel que j'ai vu le plus en fait. Mm. Parce que je l'avais sur un DVD gravé que j'ai regardé en vacances, genre.
Comment ça, un
5
DVD
fois.
Gravé?
Oui, un DVD gravé parce que j'avais laissé le mien chez moi et que du coup, je l'ai copié via la copie privée. Je pense que c'est avec lui que je me suis un peu dit, oh putain. Ils vont introduire un truc assez énorme et tout ça, mais c'était le cas en fait. C'était avec celui-là qu'ils introduisaient le MCU un peu. Et puis j'aimais bien le côté, je me suis dit, oh, putain, Robert Downey Jr., sacré acteur et tout. J'avais vraiment ce côté fun de voir un film qui parlait de super-héros. Iron Man, je connaissais pas non plus des masses et tout.
C'était pas un personnage connu.
Assez fun. Et puis le Iron Man 3 aussi, mais j'aime beaucoup aussi Civil War en fait. Bref, il y en a. Mais
en fait, ils les aiment tous.
Non,
tous.
Mais le truc, c'est que tu vois, je pense aussi à Ant-Man en vrai, qui a quand même des très bons moments. Et puis le côté.
Il y a les petits restes de Garrett.
Voilà, il y a les petits restes de Garrett qui sont cool.
Lucas, il ferme les yeux.
mais sinon, en fait, quand tu penses à ces quelques films que tu dis, ouais, c'est vachement bien, et que tu te dis que. Globalement, on en a cité quoi, 3, 4 sur les 10, les 20.
Oui, genre, c'est que
waouh, c'est qu'ils sont. Il a fallu quand même quelques coups d'essai.
On vous
invite
à revoir Thor 1,
par exemple.
Ouais,
je le connais quand même.
Kenneth Branagh.
Et là, du coup, on va avoir l'année prochaine ou dans 2 ans le premier film Marvel qui a la première super-héroïne, non?
Oui,
Captain
Marvel,
ce sera la première fois.
Bien sûr.
Là, du coup, DC a coiffé au poteau.
Ouais.
Marvel
il devait faire le Justice League il y a 10 ans, donc si
oui, parce
veux,
que,
fait
c'est vrai. Aussi. En vrai là, parce qu'on s'est attardé sur Marvel, mais évidemment on aurait pu aussi critiquer parler de tous les films du DCU, même si on a peu, mais on aurait pu parler du KBVS,
Catwoman,
parler des nouveaux trailers de la Justice League.
Justice League si tu veux.
Voilà, on fera peut-être un retour au moment de Justice League, mais peut-être un peu moins long en tout cas. En tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous attendez la suite des nouvelles aventures de, je sais pas, Pinocchio.
En vrai, on a beau la ramener, tout ça, et dire tout le mal qu'on pense de ce truc-là, là où ils ont réussi, je pense, pour moi, c'est qu'au final, on va quand même y aller jusqu'au bout. On ira à chaque fois. Et c'est un rendez-vous, plus ou moins, qu'on a tous avec ça. Et on a beau à chaque fois insulter le film après, on ira quand même voir celui d'après.
Ah ouais, c'est sûr. Et on sort toujours avec souvent, en tout cas, à part les rares exceptions, on sort toujours avec ce petit goût dans la bouche
de foutre.
Allez, drop de mic.
Voilà. Quelle meilleure manière de finir la contrebande. Moi, je vous remercie. Je peux pas. Faut pas continuer là-dessus. C'est pas possible.
C'est un goût de quoi, du coup, à la base.
Tu veux vraiment savoir?
Non, moi je pense que c'est bien de laisser planer le mystère. Ce sera dans la scène post-générique.
Un petit goût sucré agréable.
Ah non, 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 c'était plutôt un goût de fast-food. Je pensais donc au final à un fast-food, ça marche aussi.
C'est comme un McDo. Mais... chaque fois on y va, deux heures après on est là.
C'est dégueulasse.
Ça monte au bide, c'est pas terrible, t'as envie de vomir, mais deux jours après t'as envie d'y retourner. Donc c'est un peu. Voilà.
Ça cale un creux quoi.
Ça cale un creux. Ça
cale un creux.
Pensez au McDo et pas au reste. Hein.
Voilà.
Lucas est dépité.
Le final word de cet épisode pilote, c'est foutre.
Voilà. On terminera là-dessus.
Voilà. Bonjour, merci d'avoir écouté cette première émission de La Contrebande. J'espère, messieurs, que ça vous a plu. Et puis, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'enregistrer ce premier numéro.
Partagez-vous les.
Oh, et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, c'est sûrement le prochain épisode consacré à la comédie française, un hors série, alors qu'on en est au premier numéro de l'émission. Mais
c'est déjà autant le bordel que le MCU, c'est bien.
Exactement. Exactement. On lance la phase 1 là. Allez, suivez-nous sur ce qu'on partagera et puis on verra ce qu'on fait. Voilà, hein. On va pas s'embêter. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Ciao. Merci.
Foutre.
Salut.
Le mec s'en bat les couilles. Bon, c'est tout ce que tu prends à me dire. Moi, je vais me coucher.
Au cinéma, tu restes debout, toi. Assieds-toi et regarde ton nom devant toi.